Est-ce que j'y suis? Ça y est, on y est? C'est parfait! Nickel! Salut tout le monde! Bienvenue dans un nouveau Radio LOL dédié à la scène française, évidemment, à la LFL, avec Chap et Duke pour ce nouvel épisode des habitués, évidemment. Chap, l'instructeur, tout d'abord, qui ce matin était avec Sébastien Etienne. Comment tu vas, Chap?
Bah, ça va, et toi?
Bah, tranquille, tranquille. On a maté pas mal de games. J'ai regardé aussi ton initiation, j'ai vu aussi ton Twitch. Légendaire de la top lane, mais on en reparlera peut-être, des top laners atypiques.
Ça fait quoi d'être coach, Chap? Qu'est-ce que t'en penses de ce métier?
C'est pas facile, hein. Là, c'était vraiment le coach, je galérais déjà, je devais réfléchir à comment traduire les mots en français, donc... J'évitais les anglicismes et tout, c'est dur. Il faut réfléchir.
D'accord, coach en LEC, c'est pas très différent, je te cache pas. En termes de charge mentale.
C'était quoi le plus dur, justement, dans la compréhension pour Samuel? Nous qui jouons à Ligue depuis longtemps, ça rend peut-être pas compte.
Comment utiliser ses sorts.
Ah! La direction
le plus simple, vraiment le plus simple. Non, mais tu vois, genre, mécaniquement, comment appuyer sur R, viser le mec. Des fois, t'as des sorts comme ça, des fois, t'as des sorts où il n'y a pas besoin de cliquer. Ouais. C'est pas tout le temps pareil. Mais on va dire que ça a été ça le plus dur, quoi.
Duke, je m'enquière de ta santé également après une semaine à la maison, de toi et de Ziggy, bien sûr. Comment ça va tous les deux?
Je survis. Je brave le Covid en castant le LEC et la LFL, ça me remonte mon énergie vitale. Non, mais écoute, ça va en vrai. Pas de
dépression post-Covid de je ne suis plus un.
Je pensais être invincible. J'avais jamais eu le Covid. Écoute, il faut un début à tout. Me voilà dépucelé du Covid.
Et une dose en moins à venir. Voilà, ça c'est pour un petit peu comment ça va, quoi, l'actualité des uns et des autres. De quoi on va parler aujourd'hui, avant qu'on vous représente Cajou et puis le principe de l'émission. On va évidemment parler de LFL, on va parler de la cinquième semaine, le retour des équipes depuis Nice. On verra que certaines équipes ont mieux perf que d'autres, certaines sont sur des bonnes tendances. On parlera évidemment des 2-0 de la Carmine, de Vitality ou encore de GameWard. Une équipe qui a toujours pas trouvé de premier point, c'est la Team Oplon, donc on en parlera aussi. Et puis, l'objectif de cette émission, c'est aussi d'en discuter avec vous. Du coup, vous pouvez nous rejoindre, c'est !Discord, et vous pouvez proposer vos sujets dans le channel qui s'appelle Radio LFL Sélection, et vous pouvez discuter avec nous de ce qui vous a surpris cette semaine, d'un champion en particulier que vous avez vu en LFL, de votre équipe de cœur qui perf ou ne perf pas. L'idée, c'est d'en parler ensemble, et puis de peut-être poser vos questions à Duke ou à Chap, si vous en avez envie. En tout cas, on a une heure et demie pour le faire, donc n'hésitez pas. Et le tout... on peut le faire cette émission aussi grâce à Cajou. Je pense que je le représente rapidement. Cajou, c'est une appli qui vous permet en 15 minutes de vous faire livrer vos courses un peu de tout type. D'ailleurs, j'ai regardé encore ce matin, ils ont encore plus de trucs que un truc de livraison classique sur votre Leclerc ou vos genre U, etc. Il y a encore plus de références et vous pouvez trouver vos produits et vous les faire livrer. Et en plus, avec le code DukeCroc, vous avez la possibilité de vous faire votre première commande avec 10€ en moins sur un achat de 15€. Donc en vrai, full bénéfice.
Je l'utilise étant assigné à domicile, malheureusement. Ouais. En vrai, c'est assez pratique quand t'es Covid-dead.
Ouais, j'avoue.
C'est bien pratique.
Un bon résultat, effectivement, t'as minuté, millimétré le timing entre le moment où t'as commandé et le moment où ça arrive.
Non mais je suis dans le centre de Paris, donc c'est pas trop, c'est plutôt rapide.
Ok, donc voilà, !Cajou, si vous voulez en savoir plus, si vous cliquez sur le lien, sachez que chaque commande qui est réalisée, c'est aussi une aide pour l'émission. Donc voilà, si vous voulez vous abonner, vous pouvez, si vous voulez tester Cajou, vous pouvez. Alors à chaque fois, ça nous aide en tout cas. Duke, tu voulais rajouter quelque chose sur...
Non, je veux pas du tout.
Rentrons.
Cette très belle intro.
Merci. Rentrons tout de suite dans le premier des sujets. Votre sensation sur cette semaine. Toi, t'as regardé hier soir, Chap, la LFL. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué dans la journée d'hier, par exemple?
Qu'est-ce qui m'a marqué dans la journée d'hier? Que K-Corp était vraiment très très fort, honnêtement. Okay. C'était vraiment assez impressionnant de leur manière de jouer. Je pensais pas qu'ils allaient être... Je pensais qu'ils allaient être forts, je pensais pas qu'ils allaient être aussi forts. Sinon, honnêtement, c'était assez classique. J'ai pas eu l'impression qu'il y ait des gros hold-up hier. Si Gwen, c'est trop broken.
Ah, c'est honteux. On en reparlera dans d'autres questions qui ajoutent, effectivement. Duke, toi, sur cette semaine effectuée, un peu en plus différente de d'habitude avec ce format à la maison, plus dur peut-être de se plonger dans les games pour toi, ou au contraire, ça a changé un peu la donne, mais c'était cool aussi?
Non, non, c'est pas de ce côté-là, c'est vrai, pareil, c'est moins agréable de casse comme ça, c'est sûr, entre le fait qu'en plus on oublie de se mute, de se démute, ce genre de truc, c'est un peu le bordel. Mais non, sinon pour les games, bah, je rejoins Chap, hein, la K-Corp qui viennent de vraiment de plus en plus fort. J'ai l'impression que, tu vois, là on commence vraiment à retourner à la normale quand on regarde, tu vois, quand je regarde mes pronos de début de split, à part peut-être LDLC, disons que les équipes qui ont mal démarré, je pense à Game War, je pense à K-Corp, remontent bien. Les deux grosses écuries font toutes les deux 2-0, c'est-à-dire les deux très grosses écuries, on va dire Vitality et K-Corp, qui sont les deux favoris de ce split pour moi. Sont vraiment, vraiment dominants, même si on peut quand même avoir quelques doutes sur Vita encore. Et voilà, en fait, c'est juste qu'on a, je pense, moi j'ai un petit peu un goût amer de la game K-Corp Vita de Nice, où je pense vraiment les Vita déjà ont été un petit peu submergés par l'émotion, entre guillemets, ou en tout cas la pression. Et surtout, en fait, la game s'est un petit peu jouée sur le fail de début de partie de la botlane de Vita, ce qui nous a un peu privé d'un spectacle, parce que je pense que c'est vraiment l'équipe qui a le plus de chances de mettre en difficulté la K-Corp, et j'ai vraiment hâte d'être au match retour.
Bah, le match retour, ce sera le 9 mars, donc du coup, en dernière semaine. On peut imaginer un scénario où ces deux équipes sont un peu en train de se battre pour peut-être une première ou une deuxième place, ou peut-être une troisième place, peut-être, on verra. Et du coup, ce point peut être crucial, quoi. Sachant que les deux premiers ont un train direct vers les EUM, alors que le troisième devra se battre un peu plus.
C'est quand même important. Normalement, les play-in des EUM sont censés être gagnables pour une équipe de LFL, quoi.
Vita avait perdu dans l'année dernière.
Ouais, mais normalement, hein, c'est
normalement. Vrai, normalement. Salut tout le monde, hein. Je vous vois dans le chat et je lis vos premières questions, vous pouvez les partager dans RadioLol, je vois qu'il y en a certains qui en ont, on check vos micros et on va prendre certains d'entre vous durant la session. Effectivement, peut-être qu'on commence par justement ce sujet Carmine, puisque vous les mettiez un petit peu en avant dans cette semaine. Carmine qui du coup est sur un 4-0, on reprend, j'ai l'impression, les bases et on enchaîne, à l'image du Lee Sin par exemple qu'on a vu sur la top lane cette semaine, on a vu aussi un gros Aurelion Sol. C'est quoi votre sensation? Qu'est-ce qui fait que le Carmine de la semaine où ils se font 0-2 à cette semaine-ci, la semaine 5, tout est différent, c'est juste des ajustements, c'est quoi un peu les diffs que vous observez?
Tu veux y aller, Duke?
Vas-y, je te laisse.
En gros, pour moi, il y a eu des petites phases de test pour la K-Corp où ils ont essayé de pas jouer bot side, où ils ont mis Cabo sur un tank. Je crois qu'il a joué pas mal de fois Ornn. Pour moi, ça coupe un peu leur dynamique dans le sens où ils ont vraiment beaucoup l'habitude de jouer topside. C'est beaucoup plus difficile de jouer très agressivement sur le bot side que de jouer très agressivement sur le top side, à mon avis. Bah, disons que c'est de base plus facile à dive un mec que deux. Je pense que Saken a énormément step up, parce qu'au début il était vraiment un peu en dessous de son niveau. Et là vraiment dernièrement il revient très 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 fort. Je trouve aussi qu'ils ont réussi à simplement mettre en place leur jeu et plier les games, bien que voilà, ça joue toujours les compos très agressifs en early. Maintenant, ils arrivent plus à plier les games qu'auparavant, quoi. Mais sinon, la botlane a toujours aussi solide. Je pense qu'Antera aussi a peut-être pris un peu en confiance et arrive à mettre en place son jeu aussi sur les games, ce qui était peut-être pas forcément le cas au tout début. Mais sinon, franchement, c'est solide, quoi.
Espion présent avec Xavier qui est dans le chat. Duke, toi, quelle est ta sensation? Et puis après, moi, j'aimerais vous amener sur un sujet aussi autour de Reckless que je vois pas avec les mêmes picks et du coup qui peut aussi peut-être faire des choses différentes par rapport au premier split, au début du split.
J'en parlais un peu la semaine dernière, je rejoins beaucoup Chap sur Saken. Je pense que Saken c'était pas du tout le même joueur que l'année dernière en début de split. Je connais bien Saken, c'est un joueur souvent qui marche pas mal à la confiance et à la motivation, et il semble vraiment que ce passage à Nice lui l'a vraiment reboosté, et là il a été énorme cette semaine, ça me fait marrer. Bon, je pense que son pick Aurelion Sol a un petit côté flex contre Oplon, pour pouvoir roam. Je suis curieux de voir s'il va sortir Aurelion Sol, s'il facile, mais pourquoi pas en playoff sur DBO5 contre des équipes comme Vita par exemple. Mais ça, Leblanc était vraiment très très bonne. Il a très bien joué dans la game d'hier contre Misfit. Cabo, excellent, même si j'avais un peu des doutes sur la game d'hier. Quand je les ai vus autant insister sur cette top lane, au bout d'un moment, jusqu'au point où ils dive, où ils veulent mettre l'Herald et ils meurent tous les deux sur le get back de Tinx et de Scarlet, et de Chayak qui est TP. Mais Cabo, après, il avait une game très bonne pour Lee Sin, qui n'avait pas de CC pour l'empêcher de kick. Mais ça a très bien joué du côté de Cabo. On peut peut-être mettre un léger bémol à la bot lane cette fois, parce que la semaine dernière, on a beaucoup gagné au travers de la botlane avec Reyklass et Antera qui ont très bien joué avec Jinx, Leona. Cette semaine, ils ont été laissés seuls, notamment pour la game sur Lee Sin, enfin de Lee Sin contre Misfits, mais ils ont vraiment pris l'eau. Genre, le truc, c'est que j'ai fait la review ce matin sur mon stream et on voyait pas la lane, donc j'ai pas vu vraiment ce qui s'est passé. Alors, ils étaient weak side, mais ils étaient très très loin derrière, en face de lane. Et donc, j'étais assez curieux de voir ce qui s'est passé. Donc, peut-être un peu un airband de ce côté-là, du côté Antera, Reyklass. Et Reyklass qui jouait pas ses champions habituels. Honnêtement, cette game, elle était à la fois très belle et très bien jouée, mais ça aurait à tout moment pu se retourner s'ils faisaient des erreurs en teamfight. Et la K-Corp ont vraiment bien joué. Donc pour l'instant, moi, je mets un gros plus à la K-Corp parce que c'est un style de jeu que j'aime beaucoup. Mais je dirais qu'on n'est pas encore, c'est pas encore parfait. On peut encore pinailler un petit peu.
Mais on se souvient que, enfin, j'ai l'impression que du coup, on s'est un peu stabilisé aussi côté. Cassé aussi sur cette bot lane, justement, parce que on les a vu tester plein de trucs. Je sais pas si vous vous souvenez, mais le début de saison c'était Ezreal Pyke, il y a eu du Tristana Bard aussi. On a eu également un qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre? J'avais noté un autre champion, il y a eu Vayne aussi qui avait été pickbot, avec parfois des succès, d'autres moins. Mais du coup, j'avais l'impression qu'on n'était pas tout à fait certain ou qu'on testait plein de trucs. Là, on est parti sur une semaine Aphelios Jinx, un grand classique, les pareils pour les supports, avec l'idée qu'on est moins supportive bot lane, mais on va aussi être le damage dealer, ce qui est finalement très méta dans cette période, quoi.
Moi, je trouve aussi un point important, c'est que leurs drafts se sont beaucoup améliorés, j'ai l'impression, par rapport au début. Au début, bon, c'était vraiment on veut plier l'early game et puis on s'en fout du reste, quoi. Il y a eu des petits passages bizarres où ça a essayé de faire un peu les deux, un peu early, un peu late game. Au final, ça faisait rien de bien. Et là, de mettre Reyklass un peu sur des hyper carry, mais laisser en weak side et jouer au top, je trouve que ça marche plutôt bien. Pareil, typiquement la draft d'hier, je pense qu'elle était archi win rien qu'à la phase de draft. Genre Lee Sin Leblanc contre Jarvan, il y a juste rien à faire. Je trouve que les drafts sont mieux dernièrement.
Duke.
Ouais, je pense. Alors en vrai, le truc c'est, tu vois, j'ai fait un test ce matin. Je pense que si tu demandes au chat par exemple qui a la meilleure draft entre Misfit et K-Corp, tout le monde va dire Misfit avec le Jinx, GP, Victor. Ouais. Parce que les drafts de K-Corp sont quand même très durs à exécuter. Certes, il y a Jarvan, mais je pense qu'il y a très peu d'équipes qui peuvent gagner cette game avec Lee Sin Leblanc en side laner et en étant en déficit de range sans quasiment aucune engage. Je pense qu'il y avait parfois, effectivement, il y a quelques drafts où ils ont un peu glissé, où c'était trop dur à jouer. Mais je pense quand même qu'ils restent assez commis sur cette idée d'early game. Là, je pense où ils sont beaucoup améliorés en draft, déjà, c'est qu'ils vont un peu plus vers la bot lane. Comme tu disais, quand ils vont top, ça marche, mais ils ont tellement fait que top que du coup, ils étaient un petit peu attendus, un peu trop attendus. D'ailleurs, c'était parfois le cas hier.
Ouais.
Et on parle de créativité, j'ai l'impression que justement on a un peu arrêté d'essayer d'être créatif bot lane, et je pense à juste titre, tous les joueurs n'ont pas forcément, et c'est pas un défaut de pas être un créatif sur ses picks, tu vois. Reyklass, de temps en temps il sort des nouveaux trucs, mais globalement il est sur ses picks et il préfère être, c'est plus un mec qui est, et je pense c'est aussi un peu le boulot d'un carry AD au passage, il a tendance à vraiment masteriser ses quelques picks. Antera, je pense qu'il est bon de manière générale, mais là on voit bien qu'il a été bien meilleur sur Leona. 113 aussi sur les picks méta, et c'est vraiment Sakyun et Cabo qui sont connus comme ayant vraiment des champions de pool un peu étoffés et parfois un peu créatifs. On l'a vu avec Lipsyn, on l'a vu avec Aurelion Sol, qui eux vont dynamiter un petit peu la draft, et je pense que c'est plus le style cassé. Je pense qu'on a plus trouvé la formule qui marche pour le côté cassé en termes de flexibilité dans la draft. Après, à voir, ce qu'il y a aussi de temps en temps des petits moments de réussite sur des moves ou des moments de in de l'équipe en face. Je pense par exemple à Vita ou même hier contre Misfit, pour ceux qui ont vu ma review ce matin. Bref, c'est pas encore parfait, mais voilà, moi j'aime beaucoup de toute façon les games de la cassé pour le côté vraiment oser jouer leur game.
Bah pour enchaîner sur ce sujet cassé, on veut revenir avec Tagashi, qui est avec nous sur le pic Aurélien Sol. Salut Tagashi. Tu m'entends? Est-ce que tu nous entends? Yes, salut Tagashi. Bienvenue dans l'émission, bienvenue dans Radio LOL. T'es un fan d'une équipe en particulier, Tagashi?
Alors, je dirais la Carmine, mais pas non plus fan comme fan premier. C'est-à-dire que j'aime bien les autres équipes, par exemple Solari, j'apprécie grandement, etc. Okay. Puis je suis assez récent comparé à beaucoup, je pense.
Ok, et tu t'interrogeais sur un des pics de la Carmine, justement, LFL Enjoyer, nous dit certains dans le chat. Dis-nous.
Donc justement, le Aurélien Sol, donc c'est la première fois que je le vois tout court dans la compétition, et je me demandais, donc, vu que j'avais entendu que Sakan aimait bien le champion, plus au niveau du cœur, si c'était vraiment un champion qui avait une utilité dans la draft, vu que je m'y connais pas du tout, ou si c'était un champion qu'il avait pris parce que c'était un pic de confort, parce que c'était quelque chose comme ça.
Ouais, c'est une bonne question. Je pense que Duke peut donner une première réponse, et puis Chap nous donnera sa version du Aurélien Sol.
Ouais. Aurélien Sol, en vrai, moi, c'est un champion que j'adore. Le problème d'Aurélien Sol, déjà, c'est que c'est un peu un champion d'OTP, entre guillemets, c'est que c'est tellement un gameplay spécifique que... En fait, pour beaucoup de joueurs pros, vu que Aurélien Sol est jamais méta, c'est pas rentable de jouer Aurélien Sol. Ça veut pas dire que Aurélien Sol n'est pas jouable. Tu vois, c'est comme des champions comme Riven et tout ça. C'est tellement dur à maîtriser que l'investissement en temps par rapport au temps qui est nécessaire pour pratiquer les autres champions ne vaut pas le coup. Donc il faut vraiment avoir une affinité particulière avec le champion, ce qui est le cas de Sakan. Je pense pas que le pick soit troll, d'autant plus que l'avantage de ce genre de champion, c'est que quand tu le joues, les adversaires en fait savent pas jouer contre, parce qu'ils le voient jamais. Genre en solo queue t'en vois pas tant que ça, il y a quelques OTP Aurélien Sol, mais globalement t'en vois jamais, et en scrim encore moins. L'avantage du pick, après je sais pas si le pick est si fort, il avait l'air fort, il doit être fort je pense peut-être quand il se fait pas trop kite. J'avoue que je connais pas forcément toutes les...
Après ils avaient pris beaucoup d'avance. Ouais, beaucoup d'avance, donc...
Bah c'est ça le truc, c'est que est-ce que c'était contre Oplon. Toujours est-il que moi je dirais que ça remplace un petit peu un Ryze par exemple, ou une Vex. Un peu dans le style, tu vois, tu veux push et tu veux roam. T'as une sorte de stratégie pour, enfin de technique pour un peu flank avec ta comète. On l'a vu, il l'a fait à un moment où il a décalé, je sais pas si tu te souviens, sur la mid lane.
Oui, il était parti de la river bot et il avait pu choper, je crois, deux personnes. Si c'est ça. Avec sa comète.
Et donc ça fait un peu de gadget, mais à côté de ça, écoute, ça marche. Je serais curieux. On va voir. À mon avis, tu vois, je pourrais répondre plus sérieusement à ta question. Soit si j'étais j'ai été coach et que je pouvais parler à Saken au jour le jour, on pourrait demander peut-être à Striker, soit surtout s'ils osent le ressortir face à une meilleure équipe.
Mais oui. Chap, toi, tu trouves que c'est un champion fort overall ou c'est juste vraiment une niche?
Pour moi, bon, en solo queue, je trouve que c'est Secret OP. Parce que, en fait, de base, les champions qui ont un gros clear, qui peuvent se permettre de roam, etc., je trouve ça très très fort. Mais le truc, c'est que c'est un champion, comme l'a dit Duke, que personne n'a l'habitude de jouer contre, et encore moins en équipe. Donc c'est très dur d'abuser de ses faiblesses, parce qu'il en a en vrai des faiblesses Aurélien Sol. Hein, il suffit de discuter avec Sakon, il t'en citera énormément. Mais pour moi, ils l'ont piqué parce qu'ils étaient face à Oplon, et que c'est une équipe qui est largement, largement moins fort qu'eux. Et que c'était pour aussi un peu faire plaisir soit à Sakon, soit au public. Mais à mon avis, je pense pas qu'il piquerait Aurélien si c'était contre Vitality, par exemple.
Avoir en BO5. Avoir en BO5 quand même, si jamais, tu vois, ils ont besoin... Typiquement, si la méta converge et qu'ils... Parce qu'aussi, il y a des méta un peu propres au BO5, et s'ils voient, par exemple, que tout le BO5 se joue sur qui va réussir à arriver à gank top le premier ou gank bot le premier, et que Ryze est ban et que tel champion est pique, et qu'ils savent qu'Aurélien Sol va leur donner cette capacité... et qu'il n'y a que lui qui est en mesure de le faire de la meilleure des manières, pourquoi pas le revoir en BO5. Effectivement, en BO1, j'ai un peu plus de doutes, à moins que leur top 2 soit assuré. Quoi.
Enfin, c'est vrai, voilà, ils le disent, il a pris 4 bans après Sakan, donc je ne sais pas trop ce qui lui restait réellement contre la compo, mais vu que j'y connais... je ne suis pas un coach, moi, donc j'y connais pas grand-chose.
Donc les bans, je les ai là, si vous voulez. Dans Oplon Carmine, on avait du coup un ban de Ryze, Twisted Fate, Leblanc, et Carmine avait ban également Corki. Oplon avait pris Végard en réintroduction de draft, et du coup, en deuxième phase, et du coup, il a choisi Aurélien Sol, mais il devait bien rester un Victor,
il restait Vex, par exemple.
Ou Vex.
Ah ouais.
Tu as Vex, par exemple, qui fait remplir un peu le même rôle, d'une certaine manière, même si ça n'a pas tant de succès que ça à l'heure actuelle. Moi, je pense que c'était un peu un flex hein, de Sakion sur cette draft, mais c'est pas exclu qu'on le revoie. Sachant que, il y a quand même un truc, c'est que la draft des Oplon est relativement mid-range.
Victor était ban, pardon.
Et du coup, je pense que contre Aurelion Sol, Aurelion Sol, quand même, du fait de la portée de ses satellites, ne peut vraiment DPS que des champions mid-range. Tu vois, si jamais il y avait eu une Jinx ou un Xerath en face, je pense que Aurelion Sol était un petit peu plus difficile à jouer, je sais pas. En tout cas, je pense que ce serait une bonne question, par exemple, à poser à Sakion la prochaine fois qu'on le voit en interview.
Merci pour la question, Tagashi, et bienvenue dans Radio LOL.
Et merci de vos réponses.
Merci à toi.
À la prochaine, ciao ciao.
Bonne fin de radio.
Merci. Voilà, petit sujet Aurélien Sol pour conclure sur cette Carmine dont on a déjà un petit peu parlé du coup avec... Il y a quelque chose que vous voulez rajouter spécifiquement ou on planche sur une autre équipe qui a 2R cette semaine.
Allez. Ouais.
Par exemple Gameward qui jouait Mirage et Liandra puis Geo, deux équipes qui pouvaient être un peu des concurrents directs du milieu de tableau, et ils se hissent à chaque fois du coup avec une victoire, donc du coup ça les replace un peu dans le top classement de cette LFL avec une première game assez rompiche face à Mirage. On sent que Mirage veut prendre les devants et puis ça se passe pas comme prévu. Akaban qui va avoir une bonne exécution sur son Lee Sin. Et face à Geo, bataille d'early avec un petit statu quo. Chap, toi t'en penses quoi de cette équipe Gameward? J'aimerais bien avoir un peu ta sensation vis-à-vis de Akaban par exemple, le jungler, ou même Checolade en mid lane.
Bon, Checolade, je trouve que c'est vraiment un très très bon joueur. Je pense que c'est un des meilleurs mid laners de la ligue. Pour moi, c'est le meilleur joueur de son équipe. Akaban, je trouve qu'il est bon, mais il est pas, genre, c'est pas, il est pas top de jungle de la ligue à mon avis. Il a sa place en LFL, mais c'est pas le top 3, top 4 à mon avis. Je pense qu'il y a des meilleurs joueurs que lui en jungle en tout cas. Pour Melonic, c'est un très bon top laner, une très bonne individualité, mais il a fait vraiment pas mal d'erreurs sur les premières games en LFL. Inax Kaminius, pour moi, c'est un peu faible en botlane. Pour moi, Inax, c'est un des moins bons ADC de la ligue. Genre au bottom 3. Kaminius, c'est OK. C'est Raxo qui est pas ouf. Kaminius, c'est OK. Kaminius, il est OK. Mais Inax, pour moi, c'est un des moins bons ADC de la ligue. Et Overall, ils ont eu des débuts difficiles. Ça cliquait vraiment pas ensemble, quoi. Donc, tu sentais vraiment que, je sais pas. Comme si c'était la première fois qu'ils jouaient ensemble, et puis là, plus dernièrement, ça va un peu mieux. Il semblerait que Akaban ait trouvé ses marques un peu. Je pense que c'est un mec qui marche beaucoup à la confiance à Akaban. Et un peu comme tous les jungles, quelque part. Hein. Quand t'as la confiance de tes teammates en jungle, c'est beaucoup plus simple. Mais je trouve que dernièrement, c'est quand même vachement mieux pour Akaban. Et overall, c'est assez homogène. Je pense que Secolade est un peu au-dessus du niveau de son équipe, par contre.
Justement, du coup, comment on explique que cette équipe ait pris du coup autant de points au vu du bilan un peu mitigé que peut faire Chap?
Moi, je pense que sur le papier, c'est une très bonne équipe, très bonne équipe de LFL. Je sais plus où je les avais mis, mais moi, ils m'avaient plutôt déçu, à vrai dire, sur le début de split. Je pensais qu'ils feraient mieux que ça. Je les avais mis 5e. Et c'est à peu près pour moi, c'est-à-dire derrière Misfit, BDS, Vita et K-Corp. Parce qu'ils ont Checolade qui est vraiment des meilleurs midlaners de la ligue sur le papier. Il a été toujours en LEC, il a gagné les EU Masters et il remonte de plus en plus. Melonic aussi qui était très hypé. En fait, leur top side était très hypé. Et je rejoins complètement Chap sur le fait que Melonic avait fait pas mal d'erreurs sur les premières games. Et il revient bien depuis 2 semaines, même contre la K-Corp, quand il a joué Jayce contre Irelia, il s'en était bien sorti. Il avait pas run down, tu vois, par exemple, il avait pas été en 0-6 comme l'a été Ziganda, par exemple, avec le même traitement, ou comme l'a été Irrelevant hier, même s'il n'était pas en 0-6 non plus, Irrelevant. Mais il avait bien tenu, je trouve, Melonic, et là, il nous fait des meilleurs games. C'est vraiment Checolade qui carry, et il faut que la bot lane tienne, qui est le cas aussi. En fait, là, tout le monde a un petit peu step up et ça leur permet de commencer à accrocher des victoires qu'ils doivent récupérer parce que pour moi, ils doivent prendre des victoires notamment contre le bottom 3 qui sont Geo, Eliandra et Oplon. Et c'était leur, c'était les matchs de cette semaine. Bon, ils n'ont pas eu Oplon, mais ils ont eu Geo et Mirage. Et eh bien,
du coup, en s'imposant, on se dit que ça peut les rassurer, mais en même temps, la game Mirage Game Ward, moi, me fait pas dire waouh, Game Ward insane, tu vois. Avec les prises c'est de décision un peu tardives et un tournant à 38 minutes où c'est even, tu vois. Tu te dis que c'est quand même parce que t'attends d'une équipe top LFL, en tout cas.
Non, mais c'est pas une équipe top LFL. Oui, pour moi, c'est une équipe milieu de tableau LFL, mais qui a. En fait, le truc, c'est que. Le milieu de tableau LFL peut potentiellement être le top parce que je dirais que, à part Oplon, toutes les équipes ont entre guillemets le potentiel de gagner à la LFL.
Ouais.
C'est très peu probable, on parle de 1% pour certaines, mais je veux dire, c'est pas impossible que des joueurs, que ces joueurs-là, hein, que les joueurs de Game Ward gagnent la LFL, dans le sens où individuellement ça a quand même du potentiel, c'est pas complètement largué par le niveau individuel de certaines équipes. Et on a il y a un petit décalage quand même, un net décalage entre ces équipes-là et par exemple K-Corp Vita, mais ouais. Mais c'est pas absurde. Alors que tu vois, en LEC, il y a vraiment des tiers très très définis, où par exemple, les équipes comme, je sais pas moi, BDS, Astralis, SK, il est totalement impossible de les voir gagner le LEC, par exemple. Ça n'arrivera pas du tout, c'est impossible ce split-là, tu vois. Moi, je vois un monde, un peu un métaverse, dans lequel d'autres équipes, enfin n'importe quelle équipe peut gagner la LFL.
Ça c'était pour Game Ward. Je vous propose qu'on enchaîne sur une troisième équipe qui a elle aussi 2-0, puis après on plongera un peu sur d'autres thèmes, peut-être aussi des thèmes méta, et je vois qu'il y a déjà des questions dont une qu'on prendra tout à l'heure de Enzai, mais c'est sur Vitality. Ils ont 2-0 cette semaine, ils ont joué contre LDLC qui était au top du classement et Solari. On a eu un Zigenda Festival, on a eu un Skins Festival dans ces games de la semaine. Qu'est-ce que vous retenez, Chap, toi, ouais. La vue de Vitality, ça te donne quoi, à part que Gwen Easy Moon?
Bah, en vrai, de toute façon, de base, la line-up Vitality est incroyable, c'est vraiment une super team. Pour moi, le point faible, ça allait être presque Diplex, donc c'est dire si le point faible c'est Diplex, on la line-up elle est forte. Pour le coup, leur première game, Skins a été excellent, genre vraiment, il a été incroyablement fort. On parle de Zigenda parce que bah, il a fini à 13-1, mais Skins a pour le coup été vraiment incroyablement fort, je trouve, sur la game. Ils ont un peu joué à deux. Et deuxième game, pareil, Zigenda, Diplex.
C'est la même. Hein.
Ouais, Skins a pas fait une si bonne game, je trouve, la deuxième game. Il finit quand même très très bien, mais je trouve que Joko a fait une bonne game par rapport à ce qu'il avait offert, enfin, ce qu'il avait dans les mains, quoi, avec les options qu'il avait. C'est-à-dire pas grand chose, honnêtement.
Ouais.
Mais par contre, Zigenda est juste trop fort, quoi. Et en plus, il joue Gwen qui est Gwen, quoi.
Ouais. Bah, en fait, les deux games étaient assez similaires dans le sens où c'était. Alors d'un côté, effectivement, plus la première game, plus l'emphase sur Skins, la deuxième game, plus l'emphase sur Zigenda, mais dans les deux games, c'était du 2v8 très sale. D'ailleurs, il y a eu une situation, je crois, à un moment de 2v5.
Enfin, 2v8, c'est... 2v4, c'était Gwen Brome contre les 4 autres, c'est ça, hein.
Ouais, mais c'est délirant, le champion est vraiment délirant, c'est sûr, mais Zigenda a très bien joué parce que les phases de lane, il a démoli les phases de lane en pur 1v1, et vraiment dans un style très duelliste, quoi. C'est que tu n'entends pas trop parler, tu te rends compte qu'il n'y a plus de top lane en fait à 15 minutes. Ouais. Et c'est ce qui peut t'arriver en solo queue, tu vois. Tu te retournes, tu es tranquillement en train de te focus sur la bot lane, il y a plein de fights et tout, et tu lèves la tête et tu as ton top laner qui est en 0-3, qui a plus de tour et qui a 56 derrière, quoi. Et c'est un peu ce qui se passe avec Zigenda. Après, les Vitality, contrairement à la K-Corp, la K-Corp trouve vraiment un rythme de croisière à l'heure actuelle ou un style de jeu très défini. Les Vita, il y a encore pas mal d'incertitudes. La botlane qui convainc, alors que la botlane est sur le papier, pour moi, en pure laning, je me disais que ça allait être la meilleure botlane de la compétition. Alors que je pense qu'en pure laning...
T'as eu un tout petit cut, c'est le cas aussi, Chap?
Ouais, c'est peut-être parce que j'ai tapé mon... Là, vous m'entendez mieux?
Ouais.
Ouais, j'ai la botlane Vita, pour moi, je les attendais très très fort en 2v2, et je pense dans la compétition, peut-être la meilleure lane en 2v2, finalement, ça se révèle plutôt être celle de LDLC, mais les Vita, pour l'instant, ils sont... La botlane ne convainc pas, il y a pas mal d'erreurs, Jack fait pas une bonne semaine, après il était pas très en forme cette semaine, ça arrive d'avoir des off-semaines, mais de manière générale, Jack est pas encore complètement rentré dans son, dans son championnat par rapport à l'année dernière avec Misfits. Et Diplex est quand même, encore une fois, décevant. Alors, j'étais dur avec Diplex en début de split en lui mettant ouais. un B ou un A. Il a été pas bon dans les premières games. Là, il y a quelques bonnes phases. Il y a quelques bonnes phases de jeu pour ce bon Diplex. J'ai pas l'impression de voir ce mid-jungle support se balader sur la carte et détruire la carte ensemble, quoi, en early game.
Ah, moi j'ai la sensation qu'il progresse Diplex, mais c'est sûr que quand t'as un topside qui brille autant, t'as l'impression que tout le reste est à remettre en cause. Tu vois ce que je veux dire, Duke? J'ai l'impression que quand t'as un jungle top qui fait autant la diff, tu te dis il faudrait que tout le reste de l'équipe soit au diapason, quoi.
Bah, c'est ça, et surtout qu'en fait c'est pas comme si, tu vois, à la limite ce serait comme chez, par exemple, la game de K-Corp d'hier contre Misfit, où tout le monde va top, et du coup le reste de la carte se sacrifie un petit peu, tu vois. Mais c'est pas le cas, c'est pas du tout le cas. C'est pas ça qui se passe chez Vita. J'ai l'impression juste que la game est... Bon, il domine souvent, mais parfois la game est relativement close, trop close par rapport aux joueurs qu'il y a, jusqu'au moment là où, par exemple, Zyganda et Skins s'occupent de la game. Tu vois, il faut quand même style un baron, il faut quand même... Enfin, il y a eu un style de Soul, je crois, il y a une semaine ou deux, je sais plus. Je trouve qu'en fait, il y a pas souvent des games déroulées de A à Z. Alors, encore une fois, la K-Corp, ils ont des moments de réussite, ils ont des moments où ça se passe particulièrement bien, mais voilà, ils ont vraiment ce label équipe dominante que n'ont pas encore les Vita, et moi j'espère un gros step-up de ce côté-là des Vita, parce que je suis content d'avoir la K-Corp dans ma ligue, mais j'ai envie de... Tu vois, typiquement, j'ai envie que si je me retrouve à regarder une finale LDL Vita K-Corp, je voudrais que ce soit une game très serrée et que ce soit et que potentiellement que Vita gagne le split et qui crée ça crée du storytelling ou ce genre de choses, tu vois. Donc voilà, il faut des adversaires à la K-Corp, et là on voit la K-Corp qui monte en puissance. J'ai envie de voir tout le monde qui monte en puissance, et pour moi Vita reste un poil à la traîne. Après, il y a l'interview de Skins qui disait qu'il s'était pas encore beaucoup entraîné et qu'ils allaient énormément monter en puissance, et ça m'étonnerait pas.
Écoutez, il y a eu un champion qui a été très utilisé dans cette game, dont on a commencé à parler. Évidemment, on va en faire notre moment cajou. Je vous balance le jingle, je vous redisque rapidement ce qui est cajou, et on plonge dans cette question qui devrait attirer le meilleur de nos deux invités. C'est parti. Voilà, Cajou te livre en 15 minutes, donc n'hésite pas à aller regarder l'appli, il y a un code de promo en plus pour avoir 10€ de moins sur ta première commande, avec le code DUKROK, tu tapes point d'exclamation Cajou et tu tombes sur toutes les infos. Pourquoi on va faire notre moment Cajou? C'est parce qu'on va parler de Gwen, avec une seule question pour Duke et pour Chap. Gwen est-il un champion balance, simple, efficace, un champion qui semble avoir attisé la haine de certains? J'ai vu Chap tweeter sur le sujet d'ailleurs hier, et justement Chap, eh bien, je te propose de nous convaincre durant une minute que ce champion est balance ou unbalance. Tu choisis ton camp et Duke, évidemment, devra nous répondre par l'inverse. Donc, j'ai hâte de voir quel camp tu vas choisir, Chap.
Ça va être compliqué pour Duke de dire que Gwen est balance.
Eh ben, on va voir. Je suis sûr qu'il a déjà un argumentaire préparé. Et en plus, il est red side, donc du coup, il peut counterpick par rapport à toi, Chap. Donc...
Ah ouais, bah, y a pas de counterpick, malheureusement, je crois que c'est commun, mais bon, on peut essayer. Hein.
On verra si ça coûte counterpick. Chap, je te donne une minute pour nous dire à quel point Gwen est donc unbalanced.
Ok, alors Gwen, le perso déjà a un counter, c'est Kennen. Le reste, peut-être Jax. Ça peut s'éliminer assez rapidement en phase de lane. Le perso est flexible, jungle et top. Le perso est fort en lane et fort en late. C'est déjà un problème aussi, ça me fait penser un peu GP. C'est plein de contradictions et de paradoxes, c'est-à-dire que tu ne peux pas la taper en si t'es en dehors de sa zone, mais si tu es dans sa zone, tu te fais one shot. Le perso est fort contre les tanks, fort contre les carries, a trop de sustain, trop de mobilité avec le ghost, ça accentue encore plus son scaling. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur Gwen? Ah, le one shot les tours aussi, accessoirement.
Ah oui. Accessoirement.
Voilà, je pense que j'ai tout dit. Hein. Moins
d'une minute, c'est notre premier challenger qui convainc la salle. Vous aurez l'occasion de voter ici dans le chat. Chap, qui du coup dit les termes, Gwen est unbalanced, mais ce n'est pas de l'avis de Duke qui n'est pas du tout d'accord avec cette affirmation. Pas
non,
vrai, Duke?
Non, pas du tout. Et d'ailleurs, moi, quelque chose que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que c'est qu'un champion unbalanced? Un champion unbalanced, c'est un champion... par sa présence déséquilibre complètement les parties et fait remporter les parties trop facilement. Mon problème avec Gwen, c'est que Eh bien, il y a beau avoir de la frustration, un peu comme des bronzes qui joueraient contre Maître Yi, qui ne comprennent pas pourquoi ils se font one-shot par un champion qui est vraiment trop OP, qui sort de la jungle et qui les tue. Mais la réalité, c'est que Gwen, c'est un champion qui n'a pas de CC, qui est squishy, dans une méta où on joue énormément la range, et qui n'arrive pas à rentrer dans les fights. Preuve en est, son winrate extrêmement faible, Chap. Et là, qu'est-ce que tu as contre les chiffres, qu'est-ce que tu as contre les facts? 45,1% de winrate pour Gwen en compétitif. 51 wins pour 62 lose dans les top régions. C'est un champion qui est largement défavorable à son équipe. Alors certes, quand c'est maîtrisé de main de maître par un joueur comme Ziganda, on peut l'avoir brillé, mais sinon, c'est un champion qui ne fait malheureusement pas gagner ses coéquipiers, qui est simplement là, certainement, pour venir un petit peu briser l'ego de joueurs un petit peu fragiles mentalement, qui peur parfois traînent leurs pieds dans l'équipe Pixel en tant que carry AD, mais c'est à peu près tout.
Magnifique réquisitoire en faveur de plus de Gwen dans nos parties compétitives. Il a quand même osé le squishy.
Il y a eu de la dominem. Hein.
j'ai pas dit que j'étais faire.
Hein, bravo, okay. Bravo. Et vous avez un sondage, n'hésitez pas, c'est l'occasion. Je vote Duke pour l'effort parce que j'aime les outsiders, mais aucun de ses arguments n'est valide, nous dit Emarxis.
J'ai quand même de sortir une vidéo YouTube pour dire que Gwen est complètement.
C'est vrai. Ton micro a encore un petit peu cut, fais attention, mon cher Duke. Pose-toi des questions sur tes teammates si tu perds, nous dit Pépé Nécro. Comme un symbole. En tout cas, au-delà de ça, les gars, est-ce que vous voyez un moyen d'adapter, Chab, j'imagine que toi, tu as peut-être des idées en tête, pour que Gwen soit pas aussi fort, pour que ce soit pas à la fois un champion aussi fort en early et en late?
Pour moi, il faut deux choses. Il faut soit nerf son early, soit nerf son late. Pour moi, c'est un dueliste un peu comme une Fiora. Du coup, il faut nerf son early. Parce que ça serait un peu bête de nerf son late game. Je pense que c'est quand même la force du personnage. Donc, soit réduire un peu les dégâts sur son E, soit peut-être baisser les dégâts de son passif ou de son Q-spell, ou augmenter les ratios, j'en sais rien. Et il faut que, quand tu rentres dans la zone de Gwen, enfin, il faut que Gwen n'ait pas de stat bonus dans sa zone.
Ouais, je suis d'accord.
C'est absurde. Déjà que le perso, tu ne peux pas le taper quand t'es en dehors. Si tu rentres et qu'elle a de la résistance bonus, ça n'a pas de sens, quoi. Il y a un truc en trop, il y a des lignes en trop, un peu comme Akalia à sa sortie.
Il y a Je suis à Main Rumble qui nous dit supprimer sa zone. Mais en même temps, je comprends. Je comprends quand on a ce pseudo, je comprends. Forcément, la zone. La durée de la zone, nous dit certains, nerf la zone, réduire la durée de la zone.
Moi, ouais. je mets plusieurs pistes. Effectivement, soit. Il y a plusieurs pistes. Déjà. Je suis d'accord, le côté contre-intuitif, zone, être dans la zone fait que tu te fais d'autant plus one-shot, il y a un problème. Je pense qu'il lui faut un peu plus d'identité en termes de dégâts, parce que là, à l'heure actuelle, c'est un DPS burst one-shot. Je regardais un moment où tu sais, qu'à un moment, il y a je crois que c'est Ziganda qui se fait gang top, et il se retourne, et il décide, on lui dit, attends, mais en fait, je peux le one-shot.
Oui, c'est ça.
Et il est level 7, je crois, et il one-shot là, son adversaire en vraiment deux secondes. Donc, j'arrive pas à voir si j'ai l'impression que c'est un DPS burst, quoi. Ça fait tout à la fois. Il faut qu'il choisisse sur la zone, effectivement, enlever les stats bonus, éventuellement réduire la durée de la zone. Et on peut se demander aussi pourquoi est-ce que la zone suit Gwen. Il me semble pas que le shroud d'Akali suive Akali.
Non, mais ça grandit.
Il s'agrandit un peu, bah écoute, c'est vrai, mais c'est peut-être moins, mais ça reste moins broken que son shroud, sa zone. Et pourtant, Dieu sait que on trouvait le shroud d'Akali broken. Bref, il y a pas mal de choses, mais en vrai, non, mais par contre, sans rire, effectivement, c'est pas un champion qui gagne tant que ça non plus. C'est-à-dire, objectivement, ça ne gagne pas tant que ça. Donc, est-ce que si on fait des nerfs à ça, est-ce que c'est pas un champion aussi qui est juste très frustrant? Par exemple, Yumi, c'est un champion qui historiquement ne gagne pas tant que ça non plus. Mais toutes les méta où c'est joué, c'était permaban. C'était pas forcément, c'était à 50% winrate, voire en winrate négatif, parce qu'il y a vraiment un côté où quand tu perds contre ce genre de champion, t'as l'impression que t'as perdu uniquement à cause de ce champion. Quand tu perds contre Yumi, t'as l'impression que t'as perdu à cause de Yumi. Tu perds contre Gwen, t'as perdu à cause de Gwen, mais il s'avère que le champion gagne pas tant que ça. Donc encore une fois, je reprends en fait mes termes que je disais de manière un peu ironique tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'être balance? Est-ce que c'est être à 50% de winrate? Moi, je pense que le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'interactivité avec le champion pour ses adversaires, et c'est ça le principal problème dans un jeu, quoi.
En tout cas, belle résistance Duke, 47% échappe 53%, en vrai, c'est pas mal. Hein. Duke, le réquisitoire a quand même payé. Hein. Certes, il y a quand même 47% des gens qui trouvent que c'est du coup c'est tout à fait faire.
Parce que j'ai lâché une petite attaque personnelle à la fin.
Voilà. Exactement. Aucune attaque à Dominem. Je vois un petit peu vos retours, vous êtes assez d'accord. Il y en a certains qui nous disent, est-ce qu'il serait imaginable d'ajouter des dégâts en dehors de la zone? Carrément, allez, pourquoi pas. Genre 50%, ouais, toujours plus, toujours plus. J'ai un deuxième thème, et on va l'aborder avec sur la partie méta. On pourra peut-être en plonger sur un autre, et puis après on reviendra à quelques équipes de LFL, bien sûr. Mais il y a Flammer qui était là avec nous. Flammer qui était dans le chat et qui nous a envoyé un message sur la méta Enchanteur, c'est ça Flammer?
Oui, tout à fait, bonjour à tous. Oui, en gros, ça serait. Parce qu'en gros, j'ai suivi un match. Enfin, c'est pas vraiment le match qui m'a marqué. Ouais. En gros, je suis coach d'une toute petite équipe. Et en gros, on a parlé parce qu'on voyait que dans les prochains patchs que Riot avait prévu, ils buffent pas de beaucoup, mais une bonne partie des enchanteurs. Et je me disais, est-ce que ça allait pas revenir à la méta double enchanteur comme on a eu à une certaine époque?
Une méta double enchanteur pour la suite des compétitifs. Chap, Duke, vous avez une idée de ce
les enchanteurs?
Ils peuvent, ouais.
J'ai pas vu ça, moi.
Moi, j'ai pas vu ça non plus, et ça me semblerait absurde, parce que pour moi, ça fait longtemps qu'ils ont pas été aussi forts, les enchanteurs.
Bon, je trouve qu'ils sont...
J'ai regardé un match, je sais pas de quand il date, mais c'était C9 contre Golden Guardian, je crois. Où ils ont sorti du coup un Ivern mid.
Ouais. Ah, oui.
Voilà, et en voyant par exemple que Nami reprenait encore un petit buff, par exemple, je crois que c'est buff patch prochain, je crois.
D'accord.
Est-ce que ça partirait pas sur du coup, à base de petits buffs par-ci par-là, est-ce que ça retournerait pas sur une méta double enchanteur comme on a vu du coup dans ce match NA?
Écoute.
C'est les drafts de LS.
Oui, c'est ça.
On n'en a pas encore eu justement en LFL, alors que certaines équipes auraient pu le tenter. Moi je pensais qu'Oplon allait le tenter à un moment donné.
Pour moi ça c'est très très cheesy et c'est très bien pour voler des games. Après à long terme, je sais pas si c'est ce qui gagne le mieux, mais c'est sûr qu'une team qui va s'entraîner toutes les semaines, enfin tous les jours, pendant une semaine, ne va jamais jouer contre ça en fait. Donc ils vont forcément être surpris et en plus de ça, ils vont jamais probablement jouer contre un Ivern et jamais probablement jouer contre une Soraka. Donc t'es d'autant plus surpris et d'autant plus désabusé quand tu te rends compte que Soraka met tout le monde full life. Pour moi c'était vraiment des champions qui sont genre c'est broken, honnêtement ils sont broken, mais à leur rôle tu ne peux pas les jouer parce que t'as besoin d'autre chose en fait. Tu peux pas jouer une Soraka en botlane parce que t'as besoin d'une Leona, t'as besoin d'un Engage, t'as besoin d'un Alistar, d'un Nautilus, t'as besoin de ça. En midlane t'as besoin d'un carry AP qui va te faire des dégâts et qui va... Enfin, en jungle, pardon, tu vas avoir besoin d'un dueliste, d'un Xin, d'un Lee Sin, d'un Viego, d'un truc comme ça pour sécuriser les objectifs. Et il y a que en mid lane, quelque part, où tu peux te permettre de sortir un des champions qui se joue beaucoup. Si t'as une Gwen en jungle, par exemple, bah du coup, avec ton Ivern, c'est pas mal, tu vois. Ouais. Ça peut marcher. Et pour moi, c'est vraiment casse rôle, et en top lane aussi, parce que la top lane ne sert à rien, où tu peux mettre ce genre de champion.
La top lane ne sert à rien, c'est toujours l'occasion d'en reparler. D'ailleurs, t'as joué Twitch AP top Chap, c'est ça?
Oui, c'est vrai.
En roaming tout le temps.
Oui, c'est vrai.
Les Janna top actuellement, quoi.
Ou les Janna top smite, dont Duke a fait une petite vidéo récap d'ailleurs. Duke, tu voulais rajouter un truc sur ça?
Ouais, je pense que. En fait, c'est des champions broken et en ce moment, les midlaners, en fait, la prio mid est assez peu utilisée, soit parce que c'est la méta et que les gens veulent pas jouer l'early game, même si on le voit que par exemple la K-Corp le fait. Soit parce que les gens ont peur, soit parce que c'est la méta. Toujours est-il que la prio mid est peu utilisée, donc quitte à jouer en gros un champion qui est juste là pour son scaling et du coup ses dégâts, les enchanteurs en fait ils sont là pour leurs dégâts d'une certaine manière, mais ils sont là pour leur reverse DPS en gros, pour empêcher le DPS adverse et ils pensent que du coup ce qu'apportent les enchanteurs est plus fort, notamment dans les teamfights d'early mid game. Je pense qu'il est très fort aussi, c'est les items comme le Chemtech Putrefier qui marche bien. On voit d'ailleurs en solo queue, il y a des joueurs qui jouent, notamment j'ai vu Faker jouer item support en deuxième, et ensuite ils sont full roam aussi.
C'est vrai?
Ouais. Mais...
Attends, mais sur quel champion?
Soraka.
Ah, mid?
Ouais.
Ok.
Et ça j'ai tout mis dans ma vidéo sur Janna, donc les différentes un peu stratégies. Je pense qu'il y a aussi un côté que ça synergise bien avec certains les junglers AD du moment, le fait que tu puisses jouer des hyper carry bots, enfin qu'il y a beaucoup d'hyper carry bots qui soient joués et qui soient pas punis par des TP par exemple, vu qu'il y a plus de TP dans le dos bot.
Ouais.
Est-ce que c'est si fort? Moi je pense que effectivement les enchanteurs sont particulièrement forts, je pense que plus le niveau va augmenter, je pense pas que ce soit une façon optimale de jouer le jeu, par exemple de les mettre mid, et encore moins top. Je pense simplement que quand les gens vont savoir bien jouer, typiquement comme essayer de jouer à la K-Corp à l'heure actuelle, comme essayer un petit peu G2 en LEC, les mecs qui veulent rester à leur tour à spammer des heals avec Soraka, eh bien leur Ryze il va juste dive leur side et ils pourront pas jouer. Mais je pense que du coup c'est simplement du cheese de B1 comme disait Chap, et je crois pas du tout à l'avenir de... Enfin.
Donc pas trop d'inquiétude Flammer, pour l'open tour encore pour aller cheese des games, no problemo, mais on devrait pas en voir non plus tout le temps.
Oui, je me doute.
Merci Flammer, à la prochaine.
Merci à vous, au revoir.
Ciao, ciao.
Salut. Merci.
Flammer qui m'a envoyé un message, et justement ça nous fait replonger dans une équipe avec Dark L, les gars, qui veut aussi nous parler d'un sujet autour d'une des équipes, l'équipe qui pour l'instant n'a pas débloqué de victoire. Dark L, t'es là?
Oui, je suis là.
Yes, salut Dark L. Est-ce que tu voulais nous parler de Oplon, c'est ça, non?
Dis-moi. Oui, c'est ça. C'est surtout quand je vois les games qu'ils font, les résultats, qui me font beaucoup penser au premier split d'Easy Dream, je sais pas si vous vous en souvenez, celui où vous avez fait 0-14, c'était pour savoir si, selon vous, malgré les performances qui montent dans leur game, ils peuvent faire 0-18 à la fin du split, quoi.
Ah oui, hein. Alors. Je pense que oui, hein. Je pense pas qu'il y a un gap si colossal entre les joueurs de Oplon et les autres joueurs, mais juste, ils jouent moins bien ensemble. Et c'est vrai qu'ils sont quand même un petit peu moins forts que les autres. Même si je pense que Peng est bon, je pense que Tiger est pas mauvais. Mais ça reste... Peng est bon, mais Peng est quand même bottom LFL, tu vois. Donc,
Franchement, je le trouve vraiment dur. Bon, moi, avec Peng. En tout cas, il fait vraiment des belles performances dans des games qui sont archi loose en permanence. Donc, je suis assez impressionné. Par Peng. Après, le reste, effectivement, c'est pas ça, mais... En fait, le problème, tu l'as dit, c'est qu'ils sont pas mauvais, mais ils sont tous un petit peu en dessous de leurs adversaires, quasiment. Et le truc, c'est que t'additionnes tout, du coup, ça fait qu'ils prennent assez vite l'eau. Il y a toujours un endroit qui prend l'eau. Tu regardes la game de BDS, il lâche un kill direct bot, par exemple, sur le gang de Shio après 3 camps. Leur jungler est pas loin, tu vois, mais du coup, ça lâche un kill et ça amorce un petit peu le snowball. Et il y a, entre le fait qu'ils sont tous individuellement, je pense, un petit peu en dessous, et le fait qu'ils font que perdre... Ce qui fait que quand tu fais que perdre, en fait, ça te snowball dessus, quoi. C'est-à-dire que tu sais plus gagner. Je pense par exemple à Astralis, vous voyez la game contre Vita, qui est honnêtement, on ne peut plus free win la game contre Vita la semaine dernière. Ils sont largement devant, avec une compo full late game, mais juste, ils ne savent plus win, en fait. Quand t'es en game officielle et que t'as pas gagné depuis. Du coup, imaginez là, ça veut dire que ces joueurs-là, ils ont probablement pas gagné depuis 6-7 mois en compétitif. Parce que entre le Mercato et le Spring, c'est des mecs, ils ont juste oublié comment win, quoi. Et c'est con à dire, mais je pense que t'as les jambes coupées, quoi, quand tu. Enfin, la main coupée, quoi.
Duke Chap, justement, plongeons un tout petit peu encore plus loin. Vous avez. C'est à la Football Manager. Vous récupérez cette équipe à mi-saison. À mi-split, ouais. Plutôt. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit, de toute façon, on prépare le summer? Est-ce que vous changez le plus vite possible des joueurs?
Ça dépend, c'est quoi le budget?
Ce qui paye
Allez, dis-moi un budget.
T'as récupéré un sponsor de plus, t'as un petit budget, mais tu peux pas acheter Niski non plus, quoi.
Ok, j'ai un peu plus que ça?
Ouais, t'as un peu plus que...
Qu'est-ce qu'ils ont actuellement?
Oui, 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 t'as un petit peu plus que ça, parce qu'on se dit, il faut fixe.
Ok, je change jungle support.
Là, maintenant?
Ouais, okay. Maintenant.
Et tu travailles quoi, l'early à fond?
Je travaille, après c'est eux qui travaillent, hein. Moi je suis manager, moi.
Ok. Bien vu.
Je change jungle support, parce que je pense que jungle support ça peut faire gagner des games, ça peut redonner confiance un peu à tout le monde. Je pense pas que AD, top et mid ça soit vraiment très très problématique. Top à la limite, même si il est un peu moins bon que l'average top laner, ça reste la top lane, donc c'est ok. Donc du coup je change support jungle, je mets genre Advienne et Bukada.
Ok.
Et je pense que ça gagne.
Duke, même mission.
Si jamais j'ai.
Je refuse la mission.
Si jamais, ouais. Si jamais je me retrouvais coach de plomb. Non, mais en vrai, déjà, le truc, c'est que techniquement, tu peux remplacer n'importe qui dans l'équipe. La question, c'est enfin, qu'est-ce que t'as en... qu'est-ce... quelles sont les offres en fait. Et je pense que la stratégie d'Oplon à l'heure actuelle, c'est de bien regarder la Div 2, et entre les deux splits, tu prends les meilleurs joueurs de Div 2, et tu les mets dans ton équipe.
Ah, et comme ça, tu et... cuques les équipes de Div 2.
C'est ça, là, exactement. Et bah non, mais le but là, Oplon, ils sont pas. Globalement, t'es Oplon, faut être réaliste. Quel est l'objectif? T'es CEO d'Oplon. Qu'est-ce que tu vas donner comme objectif à ton nouveau coach? C'est ouais, bon, en fait, franchement, on a peut-être fait 0, je sais pas, ou 1-17 au Spring, mais t'inquiète, là, je le sens bien, on va gagner la LFL en Summer. Alors qu'en face, t'as K-Corp surarmé, Reckless qui fait 8 fois ton budget à lui tout seul. Enfin, ça a aucune chance de gagner la LFL. Idiot Master, c'est a priori, c'est dead aussi. Ton objectif en tant que patron là, c'est de dire à ton coach, ok, fais-moi survivre, garde-moi ce spot en LFL qui vaut si cher. Ça vaut presque plus cher que le reste. Et du coup, bah, le meilleur moyen, moi je suis coach, je dis ok, très bien, je vais pas gagner à la LFL, probablement pas aller en playoff, mais je vais essayer d'aller gratter cette 7ème place, 8ème place, et je vais aller piller les équipes qui ont gagné
Est-ce que je suis content de je suis en div 2, je suis en high div 2, est-ce que je vais en 0-18 au plomb, tu vois.
Bah mais non, c'est ça le truc aussi.
Mais si, parce que t'en prends pas qu'un de joueur. En gros, tu crées...
L'espoir.
Dis-toi, t'es en Div 2.
Regardez, c'est Dark Duke, quoi.
Ils sont en Div 2, ils sont pas en LFL. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui regarde les matchs de Div 2 pour l'instant. Mm-hmm. Ils sont pas du tout garantis. En gros, généralement, les équipes qui montent de Div 2, elles sont à peu de choses près rincées. Pour être remplacé par des joueurs en LFL. Donc là, les mecs qui sont en Div 2, ils sont en train de bosser techniquement pour que d'autres mecs viennent prendre la place l'année prochaine en LFL. Leur place en LFL si jamais ils arrivent à se promote. Si on te propose directement une place en LFL, t'espères rien de mieux quand t'es en joueur Div 2. Et espérer briller sur un Summer Split où personne t'en voudra, en étant payé a priori beaucoup plus quand même.
C'est sûr que sur un Summer Split, oui. Parce que t'as pas l'impression d'avoir raté ton année, quoi.
Moi je pense que tu fais ça, hein. Et je pense que s'ils sont pas bêtes, c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Parce que comme ça tu fais une pierre deux coups, tu prends les joueurs de LFL, tu affaiblis tes futurs adversaires et tu te renforces. Après, le truc c'est, est-ce que ces joueurs-là vont être forcément meilleurs que les joueurs qu'ils ont actuellement? Et ça, c'est pas gagné. C'est ça aussi le problème, faut quand même essayer de se renforcer normalement.
Ok, on est un peu dérivé on a plongé dans une utopie où Duke devenait manager de l'équipe. Vous l'avez vu, vous avez deux philosophies différentes. À vous de faire votre choix dans le chat. Et peut-être qu'on aura les Oplons à la mi-saison justement dans Radio Hall pour discuter de ça avec eux. Merci Dark L d'avoir posé la question et de nous avoir un peu plongé dans cette idée de qu'est-ce qu'on fait avec les résultats de Oplons.
Bah, de rien.
C'était cool.
Merci à toi.
Merci. À la prochaine. Merci,
salut.
À plus.
Ciao. Bon, voilà, on a fait un petit peu ce tour, justement, après les équipes qui marchent, l'équipe aussi en difficulté. Est-ce qu'il y a une autre équipe que vous voudriez mettre en avant? On a un Solari qui a perdu ses deux games, par exemple, cette semaine, avant qu'on plonge dans l'équipe type et puis qu'on parle un peu de méta. Vous voulez qu'on parle
en vrai, Solari, cette semaine... Alors attends, laisse-moi rappeler, le premier game c'était contre Misfits.
Oui,
c'est pas une semaine facile. Hein.
Ouais, c'est vrai que c'était Misfits et Vita, donc c'est quand même deux bonnes équipes. Après, comme m'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de semaine facile en LFL. honnêtement, je suis toujours très impressionné par les perfs de Joko. Je trouve qu'il est excellent avec les lanes qu'on lui donne. Je trouve que par contre... Il y a eu un counter pick Tristana à Zeri sur la première game, mais je trouve que ça a été tellement mal joué. Pour moi, en fait, ils auraient dû contester le push niveau 1. Je sais pas si vous vous souvenez de la game, mais en gros, niveau 1, donc Solari et Redside, niveau 1, ils vont pull le blue buff. Ouais. Du coup, ils arrivent late sur la lane, du coup, Zeri a le perma push, du coup, Tristana se retrouve à 16 sous tour et c'est fini, tu vois. À partir de là, la lane est déjà finie. Pour moi, ils auraient dû... ne pas pull, arriver sur la lane niveau 1 et perma push et scale avec Tristana, parce que autant Zeri ça scale peut-être bien, Tristana c'est quand même un très très bon ADC en scaling, quoi. Donc ça, pour moi ça a été très mal joué. Pour le coup, Kyo qui avait fait une bonne phase de lane contre Irrelevant qui a réussi à le solo kill. Et bon mid lane, Scarlett il s'est fait surprendre par Zeri. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'entraînement contre Zeri, côté Solari cette semaine, ou alors pas assez en tout cas pour.
Il y a eu un gros roam, non, c'est pas ça?
Ouais, c'est ça, Wula était vendeur qui décale au niveau 3 après avoir pris push. Mais ça aussi, ça découle du fait que la botte doit pull son camp, quoi.
Après, Skylad doit pas mourir là-dessus, je pense, hein, sur ce,
oui,
sur
oui,
ce mot.
C'est sûr.
Bah après, la game est encore jouable à 35 minutes de jeu, mais c'était sans compter la mauvaise engage de Steeba, ouais, et un misfit qui, du coup, déroule avec un package, quoi.
Ouais, la game était close, mine de rien, ouais, parce que la game était très très close, mais ouais, le package de Corki en late game, c'est tellement dur de jouer autour de ça, quoi.
Ah, il aspire deux joueurs, et je crois qu'il emmène Joko avec lui, et derrière, misfit, teamfight. Ouais, ouais, donc ça, c'était la première.
Il y a eu un mauvais fight aussi, enfin Steelback et Kyo qui trouvent pas le flanking à la fin.
Ouais.
Mais ce qui est terrible, c'est, je crois que c'est LRB qui disait ça, c'est que vu les standings, tu fais un 0-2, t'es instantanément mis au fond dans la ligue. Ouais. Alors que, enfin, un 0-2, on voit que les games se jouent tellement à rien à chaque fois. Et encore une fois, je pense que tu rejouerais toute la saison depuis le début, t'aurais probablement des scores complètement différents à plein de matchs. Et donc c'est vraiment punitif. Juste, moi je vais revenir sur le pic Tristana. Est-ce que tu sais un petit peu plus pourquoi ils se pensent que Tristana est... Enfin, s'il y a un truc spécifique qui fait que Tristana serait forte contre Zerich.
J'en ai aucune idée. J'ai juste vu que dans l'historique de Aza, il y avait une game contre Exaki qui jouait Zeri et lui jouait Tristana et il l'a explosé. Et je pense sincèrement que ça vient de là, mais...
D'accord.
Mais c'est juste tout.
Bah, moi, la sensation que j'ai, c'est que... en fait, si Zeri go in, du coup, j'ai la sensation que du coup, c'est elle qui est en maîtrise. Mais si la Tristana go in, Zeri peut quasiment rien faire, non? Parce que t'as le burst, tu peux la repousser au moment où elle veut burst dans les teamfights. Et le temps qu'elle revienne sans son E et les reset, tu fight, quoi.
Bah, je sais pas. Pour moi, à partir du moment où il y a exhaust contre exhaust dans un matchup Tristana, c'est très compliqué de kill. Mais après, niveau scaling... Ça, pour moi, Tristana, ça outscale. Même si Zeri, j'ai l'impression que c'est aussi un sacré délire en scaling. Je sais pas trop. Non.
J'en ai vu une d'ailleurs qui jouait l'âme du roi déchu, deuxième item là, en LPL.
Sur une Tristana?
J'ai pas encore testé. Non, une Zeri. Pour l'instant, j'avais vu Runan Hydre après la Trinité, mais là, c'est la première fois que je voyais Trinité BOTRK.
Ouais, je pense qu'aussi, on a un problème de champion de pool. Dans cette équipe, je pense que Aza joue trop peu d'ADC.
Ah, ouais. Il a joué quoi si je regarde il a déjà, joué quoi jusque là?
Déjà, on a ban Aphelios et Jinx dans cette game là.
La game d'après, ça ban Aphelios, Jinx et Zeri.
Est-ce qu'il joue Aphelios, Aza?
J'ai pas l'impression.
Il n'y a aucune game d'Aphelios. Il a joué Jhin, Jinx, Ezreal, Syndra, Kai'Sa, Tristana, jusque-là.
Jhin, Kai'Sa, Tristana.
Ah, c'est tout sauf Aphelios, quoi. Et Caitlyn, ouais, éventuellement. Après. Mais j'ai l'impression qu'en gros, et c'est le problème moi, que je reproche à Solaris, c'est que j'ai l'impression que mid-bot, on n'est pas très dominant en lane purement. On joue pas la lane. Et ce qui empêche déjà Joko de peut-être de plus, parce que Joko c'est quand même un joueur, je me souviens à l'époque où il m'avait la première fois impressionné chez Giants, il jouait Olaf tout le temps, il invadait tout le temps, et là c'est un petit peu plus difficile pour Joko de jouer ce jeu-là. Et du coup en fait on se retrouve, alors je sais pas, est-ce que c'est le style des joueurs, est-ce que c'est la stratégie vu qu'on joue pas forcément la lane, ce qui se faisait par exemple pareil chez Splice à l'époque, hein, mais du coup on se retrouve à jouer late game et à être beaucoup en réaction. Du côté Solari. En fait, les Solari sont beaucoup en réaction. C'est ça qui est un peu le problème, je pense, de cette équipe et qui se retrouve du coup à. Maintenant que les équipes montent en puissance, c'est souvent les équipes en face qui ont la main en fait sur la game plus que l'inverse avec Solari. Et du coup, si les équipes en face règlent leurs soucis, c'est va directement au détriment du style de jeu Solari. Et du coup, malheureusement, c'est un 0-2 pour eux cette semaine. Je pense qu'ils peuvent tout à fait remonter.
Tu penses qu'on peut pas jouer en réception dans Ligue?
C'est pas tant en réception, c'est... Tu peux jouer en réception parfois, je trouve que c'est plus en réaction. C'est-à-dire que tu peux jouer en réaction, beaucoup. Mais je trouve que plus le niveau augmente, généralement, plus être proactif... En gros, être proactif, c'est-à-dire que t'as la main. Donc c'est-à-dire que si t'as la bonne idée et que tu l'exécutes bien, tu gagnes. Et c'est quelque chose que je pense pas typiquement, c'est ce que veut faire la K-Corp énormément. Et comme justement la K-Corp insuffle un peu cette dynamique dans la ligue, je pense que d'autres équipes vont commencer à suivre. On voit par exemple les Géos ont beaucoup essayé de jouer comme ça, avec de l'early game, des moves proactifs. Et du coup, je pense que le problème, c'est qu'à un moment, si tu piques Kassadin, ce genre de choses, bah, les mecs, ils vont réussir à roam, ils vont réussir à trouver des plays, et plus on avance dans la saison, plus les gens vont être pixel là-dessus, quoi. Donc voilà. En fait, c'est juste que ce style en réaction, pour moi, c'est pas un style qui va te faire progresser énormément.
Ouais, essayer de punir, mais s'il n'y a rien à punir, du coup, où est-ce qu'il est ton fond de jeu, quoi. Géo ont raté leur game à cause de ça, nous disent dans le chat.
Ouais, contre Misfits, c'était. Alors, je sais pas, il y a une semaine ou deux, ils avaient joué contre Misfits, je crois, et individuellement, ils n'avaient pas le niveau pour. Parce que c'est un niveau. C'est le problème de ce style de jeu, un peu plus early game, c'est que ça nécessite d'être pixel individuellement, quoi.
Du coup, voilà, ça c'était Solary, donc ils ont joué Misfits, ils ont joué Vitality. On a déjà parlé un peu de la game Vitality à travers les yeux du 2v5 Brome Gwen. Oui. Donc on va pas forcément revenir là-dessus. Ils joueront la semaine prochaine. Des matchs importants, je crois qu'il y a BDS dans la liste, et pour Solary, il joue, je vous le dis, BDS et Game World. Donc ça va être vite vu, c'est des matchs qu'il faut absolument gagner. Et après, la semaine d'après, c'est au plomb Mirage. Donc avant de finir, très très fort sur les équipes de haut de tableau. Go parler de BDS, nous dit Yokendrick, j'ai vu ton message, je le prends rapidement, on va pas faire toutes les équipes de toute façon, c'est comme ça qu'on fait, on fait un peu des sélections, mais BDS perd contre Géo, mais gagne ensuite contre Oplon. Est-ce qu'on peut dire que BDS a retrouvé le lead malgré tout? J'ai l'impression qu'il y a eu un avant et un après Nice pour BDS, je sais pas ce que vous en pensez les gars.
C'est vrai qu'avant Nice ils étaient très forts. Bon, pour le coup, je sais pas si gagner contre Oplon on peut vraiment considérer ça comme un fait. C'est genre normal, honnêtement, à ce stade-là. Pour moi, BDS, je trouve que je saurais pas comment dire, mais j'ai pas l'impression que c'est trop crown shot orienté. C'est-à-dire que il faut que crown shot carry les games. Genre crown shot et aggressivo aussi. C'est vrai qu'aggressivo a porté quelques games. Mais je trouve que crown shot, s'il est feed, il va carry la game. Ouais. Et malheureusement, j'ai l'impression que on arrive à le museler un peu, ou alors on arrive à carry de l'autre côté de la map, c'est un peu compliqué. Et j'ai un petit problème, je trouve que Sheo est pas excellent. Il a réussi à voler beaucoup de games sur des smite steal, honnêtement.
Ouais.
Duke, t'avais une analyse un peu similaire déjà la semaine dernière.
La même, je mettrais surtout, moi je trouve que Zico est vraiment en train de nous faire une dégringolade sur ce split. Zico qui gagne plus ses lanes du tout, voire qu'il est clairement lose. Contre Ronaldo, il meurt un peu pour rien. C'est un peu bizarre. C'est comme s'il y avait un peu. Vraiment, c'est plus le même joueur. Vraiment, c'est juste plus le même joueur. Pour Zico, c'est plutôt rarement un joueur dominant en lane. Là, en lane, il ne s'est rien passé spécial. Avec Vex contre Victor, on ne l'a pas vu spécialement bouger. Donc moi c'est Zico et Sheo effectivement, qui là il était là bot, mais parfois il était pas là. Les loses avant étaient souvent dues avec Sheo qui était en retard, mais après est-ce que c'est la faute de Sheo, est-ce que la faute de ses coéquipiers, ça c'est vraiment un problème de team, mais en tout cas une mauvaise synchronisation avec le jungler, et il est pas encore complètement rentré dans sa compétition Sheo, je pense. Et tu l'as dit, ils sont très du coup lisibles sur leur volonté de jouer avec Crunchshot, parce que j'imagine Crunchshot était cal, c'est un peu, en gros c'est un peu comme K-Corp avec Cabo. C'est-à-dire que Crunchshot, c'est un peu le Cabo. J'ai eu les deux de toute façon. Et les deux, ils vont, si tu veux, sur chaque slow push, ils vont te dire on peut faire ça, on peut dive, on peut punir sur le freeze, tout ça. Et le truc, c'est qu'un jungler, notamment je pense à un jungler comme Sheo qui est très jeune, il peut peut-être se faire un petit peu bouffer par ça. C'est-à-dire que t'as Crunchshot qui a l'air d'être très décisif, qui est très bon, et qui te demande globalement d'être là tout le temps, bah du coup, t'arrives pas forcément à faire la part des choses, et tu finis par pas avoir ton propre plan de jeu. Ce qui peut être le risque. Donc voilà, j'avoue que BDS ne soit, pour moi, ils ne sont pas encore, m'ont pas convaincu clairement, comme tu disais, Chap, avec leur victoire sur Oplon. Il y a un potentiel de fou dans cette équipe, hein. Individuellement, c'est aussi une des meilleures équipes. Tu parlais des équipes qui peuvent gagner la LFL. Pour moi, c'est une équipe qui peut clairement gagner la LFL, par exemple BDS. Mais c'est pas, ils n'ont pas encore trouvé le truc, et je pense que c'est un peu à l'image de Vita finalement. Enfin, le mid jungle est pas tranchant, quoi. Alors Vita, c'est plus la synergie mid-jungle. Skins est très bon, mais c'est plus la synergie.
Certains sont en tout cas déçus. Ou ça est de BDS. Ce sera l'occasion, s'il y a des fans de BDS ou justement des gens qui sont déçus du début de saison du milieu de saison de BDS, n'hésitez pas à venir nous le partager. Justement, il y a un autre thème un peu connexe. Alors cette fois-ci un peu plus sur les stats, et j'ai l'impression que c'est un sujet qui est revenu plusieurs fois, moi j'en ai entendu parler aussi, c'est un des sujets que Nicolas Pérez a balancé sur Twitter à propos des jeux de stats, je sais pas si t'as vu Duke cette semaine, et il y a Fox Eten qui voulait nous en parler un petit peu. Fox, t'es là?
Oui, bonjour.
Yes. Fox, allez. Tu voulais nous parler d'un des sujets qui était là cette semaine avec Nicolas Pérez, le coach de GameWard, qui a partagé durant la saison, enfin cette semaine, un tweet disant qu'ils n'avaient pas accès aux mêmes stats que les équipes de LEC, c'est ça, Fox?
Ouais, c'est ça. En gros, il disait que les stats étaient accessibles globalement aux équipes académiques de LEC et à GO. Et que lui, en tant que coach Game Ward, il trouvait ça un peu unfair.
Ouais.
Et il y avait une réponse de Zef, donc le coach de LDLC, qui a demandé leur avis à GotoOne, enfin aux autres coachs qui ont accès aux data, en disant que de toute façon, au niveau ERL, ça serait pas très utile, pas correctement utilisé. Okay. Et du coup, j'étais curieux d'avoir votre avis, savoir ce que vous en pensiez.
Je suis même pas au courant, c'est quoi cette histoire de statistique, parce que je veux bien une explication.
C'est l'accès aux data des scrims par Riot.
Comment ça, il y a des data de scrims par Riot?
Ouais, très clairement. Moi, j'ai jamais eu ces trucs-là, il me semble.
Moi, ce que je sais comme info, et je vous dis si tu me dis, Duke, si c'est quelque chose que tu as vécu ou pas. En gros, Riot a trouvé une entreprise qui s'appelle Baze, B-A-Y-E-S.
Ah, ça je sais, j'avais déjà vu.
Qui récupère les données de tous les scrims, de toutes les équipes LEC. Et en gros, ces stats, elles servent pour chacune des équipes à compiler leurs données sur leur propre scrim, si j'ai bien compris.
Ah, ok.
Voilà. Et du coup, ça donne. Ça peut, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc évidemment, les équipes académiques de LEC, elles ont dû en profiter, ou pouvoir profiter de cette base de données. Mais c'est pas le cas
juste...
de tous. Vas-y, Duke.
Ouais, mais tu as accès qu'à tes games, du coup.
Oui, exactement. Ouais. Sauf que tu imagines que tu dois pouvoir aussi avoir les games de tes académies.
Ouais.
Plus, tu as du coup plein de stats à l'intérieur de tes games que tu n'aurais pas dans le classique, tu sais, genre les positionnements de chacun de tes joueurs par seconde, quoi.
Ouais, mais en fait,
voilà. Vas-y, Duke.
C'est juste que, vraiment, les stats, j'ai beaucoup utilisé les stats pendant longtemps. Mes anciens joueurs pourront en témoigner. J'ai essayé vraiment d'être à l'avant-garde de ce genre de trucs. J'avais push beaucoup, notamment à l'époque, on avait recruté Tolki pour recruter du monde dans ce milieu-là et de faire bouger les choses un peu en data analyse, voire même essayer de voir s'il y a des trucs à faire en machine learning. Et les stats sont utiles dans une certaine mesure. C'est-à-dire que le truc, c'est qu'est-ce que tu peux en faire parfois. Moi, je pense que ce qui est le plus intéressant, généralement, c'est sur les drafts. Je pense que les stats in-game, alors peut-être que j'ai jamais eu la bonne analyse du truc ou j'ai jamais eu les bons analystes, mais il me semble que j'ai eu des très bons analystes, notamment chez Vita, j'ai eu une analyse vraiment de fou. Il y avait des trucs utiles qui sortaient, mais ils sortaient plutôt par lui-même en fait. C'est-à-dire que c'était pas forcément. Il avait accès à toutes les stats que vous voulez. Je vois pas vraiment ce qu'on peut. Quelle info décisive et si relevant tu vas trouver dans ces analyses de scrim. Je dis pas qu'il faut pas avoir le même traitement. Et qu'il y a... c'est inutile, c'est pas, certainement pas inutile, mais comme le disait F, je pense que vu le jeu des équipes LFL, si tu voulais, je pense que les discussions à la marche sur des micro-trucs de stats dont je suis pas convaincu qu'ils soient toujours relevant, c'est pour moi le dernier des soucis des équipes LFL. Et surtout, je pense que toutes les stats les plus intéressantes maintenant, alors à moins que t'aies aussi pas la force de frappe pour toi-même enregistrer tes scrims, parce que moi j'avais un mec qui les enregistrait et qui pouvait nous donner le stat, mais c'est surtout sur la draft, et là tes stats tu les as, et celles de compétitif elles sont disponibles sur Game of Legends, donc voilà.
Chap, toi tu récupères pas les stats du Vel'Koz de ton midlaner pour voir si...
Non, j'ai pas besoin de voir de statistiques pour ça. En fait, déjà, qu'est-ce qui empêche les équipes de s'acheter un abonnement BIS là,
ouais.
Je sais pas s'ils ont une exclusivité avec la LEC, mais si c'est une entreprise, elle doit chercher à faire du profit, donc à vendre à n'importe qui, quoi.
Moi, je crois que c'est un partenariat avec Riot et que du coup, elle est pour l'instant uniquement sur le LEC. Mais l'idée, ça va être, j'imagine, de l'implémenter partout. Enfin, s'ils peuvent faire plus de thunes, j'imagine qu'ils le feront. Enfin, je pense pas
qu'ils... Ok, ok.
Mais effectivement, ouais. ça créerait un unfair advantage entre trois équipes de LFL qui, elles, possèdent cet accès par rapport aux trois autres, aux sept autres.
Ok. Et deuxième chose, bah, comme tu as dit, moi je pense que les data c'est très, très, très surfait. Dans le sens où, le jeu, c'est un côté instinctif aussi, c'est pas que de la data, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a certains analystes qui vont comprendre le jeu que du côté data, et du coup, bah, leur avis sera très très à prendre avec des pincettes, parce que bah, ça ne vaut rien sans, sans la patte du joueur, tu vois ce que je veux dire. T'as besoin de jouer au jeu pour comprendre et pour voir comment ça marche, parce que le jeu, t'achètes les items optimaux pour un tel En bref, je m'égare, mais voilà. Pour moi, les datas, c'est pas non plus le truc le plus important, et je pense que le feeling in-game aussi joue beaucoup.
Mmh. Alors, moi, je pense que les datas sont très importantes, qu'on soit clair. Okay. C'est très important. C'est juste que parfois, on a tendance soit à surinterpréter les datas, soit à les interpréter pas correctement, et soit aussi parfois extrapoler un peu des datas à partir, typiquement sur les faits de jeu. Moi, déjà, j'ai souvent du mal avec les datas qui sont pas sur la draft. C'est-à-dire, j'ai pas le souvenir d'avoir entendu un truc intéressant que je pense que des joueurs pourraient utiliser sur quelque chose qui n'est pas de la draft, ou des builds. Voilà. Ensuite, utiliser, par exemple, sur les builds, je pense que aussi, les builds, c'est un sujet un peu compliqué parce que pour moi, c'est plus l'intelligence de joueur que de la data. On peut lui dire un build optimal pour un joueur, mais souvent, il y a plusieurs types de builds et qu'il faut savoir adapter suivant la game, en fait. Et ça, personne va le faire à la place du joueur. Et pour moi, sur les drafts, après, en fait, il faut aller voir plus loin souvent que juste le win rate d'un champion. Je pense qu'il faut voir les synergies avec d'autres champions, les match-ups indirects, ce genre de choses. Et je pense qu'il faut y passer beaucoup de temps. Il faut que les stats te mènent plus à te poser des questions plus qu'à te donner une réponse. Tu vois.
Après, si t'es un champion. Je suis d'accord. Après, honnêtement, si c'est pour traquer les drafts, je veux dire, t'as pas besoin d'une entreprise externe pour faire ça, quoi.
Complètement. Bah non,
ouais. On est d'accord. Je vous vois dans le chat, la question c'est pas si c'est utile, mais si tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, c'est pas normal. J'entends.
Ça, je suis d'accord.
J'entends, et effectivement, je trouve que c'est là où le tweet de Nico est intéressant. C'est pas tant sur à quoi ça sert, est-ce que nous on va l'utiliser mieux que les autres. Ça, c'est ce qu'on peut chacun en penser. Mais la réalité, c'est est-ce qu'on doit tous avoir la même pour que la compétition soit faire, ou est-ce qu'on l'interdit aux équipes académiques qui font partie de la ligue. Bon, moi je pense qu'il faudrait plutôt la donner à tout le monde et que chacun doit en faire le mieux possible, enfin en tout cas en faire ce qu'il pense être le mieux pour son équipe, plutôt que de la réserver à une élite.
C'est sûr.
D'accord. Ouais, c'est ma position.
C'est sûr, c'est juste que, et c'est un peu le, parce que globalement Nico disait nous on l'utilisera parfaitement, et donc c'est bon, il était pas scandalisé, mais bon, il essayait un petit peu de provoquer une situation. Zef lui dit bon, globalement c'est un sujet mineur, et je rejoins Zef. En gros, il n'y a pas lieu d'en faire un drama non plus, ça va pas du tout, je pense que ça va pas changer la saison. Par contre, il faut que ce soit fixe. C'est bien qu'on en parle, parce qu'il faut dans l'absolu que ce soit fixe, mais je pense que ça change pas grand chose.
Merci. Fox, merci d'avoir posé la question, parce que c'est vrai que c'est un thème que j'ai pas du tout abordé cette semaine, et je suis content qu'on en parle avec Duke Eshap. Merci Fox.
À toi. Merci prochaine. À vous.
Parce que l'heure tourne, on a parlé de sujet de data, mais là on n'a pas besoin de data, là c'est le feeling qui va parler, on a l'équipe type, les gars. Eh oui, l'équipe type, celle qui nous fait trancher à chaque fois, celle qui dérange aussi souvent, parce que tout le monde n'est pas d'accord.
Les vérités qui dérangent.
Voilà, peut-être. Il faudra rester fort, mais dans le chat vous avez la possibilité de voter. De voter pour les postes, même si ça influe pas toujours nos résultats à la fin, sachez-le.
Parfois, on dit m'en fous, tout simplement.
Voilà, exactement, m'en fous, palu, ratio, tout ce que vous voulez. Les MVP donc récompensent les meilleures performances de cette semaine, et je dirais cette semaine uniquement, et évidemment on fait ça par lane, et on commence par la top lane, comme d'habitude. La top lane, du coup, où se sont illustrés potentiellement un Cabo qui fait un 2-0 cette semaine, un Zigenda également. Melonic est également dans la liste puisqu'il a fait un 2-0 avec Gameward. Est-ce qu'on a des top laners qui se sont pris des MVP par le public? La Gwen de Visichachi du côté de Geo.
Deux fois, hein.
Une fois sur deux, parce que malgré qu'il a eu le solo win team fight dans le Gameward face à Geo, de la game 2, c'est pas lui qui a pris le point de MVP, c'est Akaban.
Il a perdu surtout la game. Tchatchi a perdu. Attends, tu parles de Melonic ou Tchatchi?
Je parlais de. Ah oui, je parlais de Tchatchi, il l'a perdu, oui, exactement. Il l'a perdu, ouais. Je suis bête. Et après, il y a Zigenda qui a pris aussi des points de MVP par le public dans le Vitality Solari. Vers qui votre cœur balance? Chap, est-ce qu'il y a un top laner que tu veux récompenser cette semaine pour son bon travail?
Moi, je pense que tu ne peux pas ne pas mettre Zigenda, en fait. Honnêtement, je pense qu'il n'y a que Cabo qui peut faire un peu concurrence, mais ouais. Même Cabo contre l'iGame de Darlik, bah, Darlik a solo kill Cabo avec. Avec Malphite contre Graves, mais même si Gwen est dégoûtant comme personnage, le mec a un V9 de game, donc tu peux juste ne pas le mettre. Enfin, c'est impossible de pas le mettre en fait.
Ouais, et moi, je vais mettre Riot Cashmere, la game designer de, je crois que c'est de
Riot
de Gwen.
Cashmere.
C'est son nom. Hein, vous allez sur son site sur
non,
Gwen,
je sais même pas.
Sur Gwen, sur League of Legends fandom. C'est écrit Riot Cashmere.
Donc bref, des points de MVP pour Riot Cashmere, très bien.
Non mais en vrai Zigenda, en vrai après Cabo fait une game de dingue avec, enfin il fait vraiment vraiment une game de dingue avec Lee Sin.
Ouais.
Son autre game est un peu moins bonne, elle est un peu whatever. C'est dur de pas la mettre à Zigenda sur cette game parce que il démolit les lanes mais à un point genre démentiel tout seul deux fois. Et ensuite il a un V9. Donc bon, c'est difficile. Cabo a fait une très belle perf. Tu vois, on a mis Cabo la semaine dernière. Je pense que ouais. Cabo a fait une meilleure semaine cette semaine que la semaine dernière. Mais Zigenda l'a démoli. C'est un peu comme. Enfin, il y a eu pas mal de cas comme ça où il y avait plusieurs très gros candidats. Mais je pense que Zigenda, c'est.
Attention, Duke, t'as encore ton petit micro qui coupe. Sur la jungle, puisque je crois que la top lane, il n'y a pas besoin de vraiment faire un sondage. Attends. T'as vraiment fait un sondage? Ah non, j'ai cru que Space avait mis un sondage avec seulement Zigenda comme vote, mais on n'en était pas loin. Jungle, c'est peut-être un peu plus challengé. 113 fait une bonne semaine. Skins également fait une très bonne semaine. Akaban finit en 2-0, donc ça c'est pour les 2-0. Est-ce que quelqu'un a pris des points de MVP? Bah deux fois Akaban pour ses Lee Sin et Xin Zhao.
Ouais,
Skins
aussi,
pour son Lee Sin.
Akaban, hein.
Ouais. Alors Sharp, ouais, tu défends.
Moi, j'aurais dit Akaban, même si je pense qu'individuellement, c'est pas le meilleur jungle de tous les jungles qui sont proposés. Je trouve qu'il a vraiment fait une très très grosse semaine. En fait, j'ai du mal à donner les MVP à 113 parce que je trouve que 113 joue vraiment le mode facile de League of Legends avec le top side de comment il s'appelle, de Damwon. Même si il est très fort, je trouve que Akaban, pour le coup, est plus méritant dans le sens où il a des moins bonnes individualités sur ses solo lanes.
Tu veux dire que c'est plus difficile de gagner quand on est Akaban dans son équipe que 113 dans son équipe?
Non, j'ai dit juste que c'est plus facile de jungle quand t'as Cabo, Char et Sakan que quand t'as Melonic
et... Ok, on peut le voir comme ça.
Et c'est collade.
T'es en train de dire que tu détestes 113?
Non, moi, je n'ai rien contre 113. Je dis juste que c'est beaucoup plus facile que son travail dans les games.
Ah, mais je rigole.
Non, bien sûr que.
Et non, mais je comprends complètement. Moi, je t'avoue que 113.
Je suis d'accord.
Moi, 113, je suis très impressionné par 113 après avoir regardé les voicecom de K-Corp.
J'ai regardé.
Mais c'était pour la game d'avant, mais la semaine d'avant, mais
ah si,
je pense, enfin, je suis très très impressionné. C'est vraiment pour le coup, je le dis, pour avoir coach beaucoup de joueurs, des comme ça, j'en ai pas vu souvent. Mais cette semaine, il a été bon. Mais moi, je mettrais effectivement derrière Akaban et moi Skins. Skins, pour moi, il fait deux games de fou avec
Skins,
Lee Sin. Après, c'est beaucoup. Encore une fois, c'est beaucoup de play clutch. Il a, enfin, tu vois, moi pour moi c'était Skins cette semaine.
Est-ce que c'est ça qu'on récompense? Enfin, moi en tout cas, ce qui m'était à me réfléchir entre les trois, c'est celui qui a le plus brillé dans cette semaine, qui m'a le plus impressionné, tu vois, dans ses moves et dans mon rôle de spectateur, c'était Skins. Tu vois, à la fin des deux journées, je me suis dit waouh. Mais après, il va falloir qu'on tranche. Hein. Je vois que dans le chat, vous êtes assez 113. Akaban mis aux oubliettes.
Moi je suis pas. Je suis pas convaincu par son âge, j'ai trouvé bon, hein. Je trouvais bon 113, mais il a fait des moves chelous aussi. Hein. Tu voyais dans la game contre Misfit, il y a un moment il run d'un top. On sait pas trop pourquoi. Moi je resterais sur mon Skins ou mon Akaban. Je me sentrais, je le mettrais en troisième.
Ouais, je suis assez d'accord. Aussi.
Skins du coup prend le point de MVP.
Ouais, bah le chat nous a dit quoi?
Bah, le chat a dit 113 en 1, Skins en 2, Akavan en 3.
Donc, ouais, moi je mettrais pas 113, que j'ai, pour qui j'ai beaucoup de respect cette semaine, de manière générale, mais je ne le vois pas cette semaine.
Et bah, du coup,
moi je mettrais Akavan over Skins over 113.
Oui, bah, ça,
tu tranches, tu tranches entre Akavan et Skins. Toi, t'as dit plutôt Skins aussi.
Non, mais moi j'ai dit plutôt Skins, donc ça va être Skins hein, cette semaine.
Ça me va.
Dommage pour Akavan, et il y aura peut-être d'autres semaines. Skins du coup prend les points avec Zygenda. Pour l'instant, c'est une duo du coup de
Vita.
De Vitality. Derrière, on a la mid lane. Et là, les changements peut-être.
Ah, oui. Comment ne pas mettre Sakken?
Voilà. Comment ne pas mettre Sakken? À part peut-être un Checolat qui a quand même fait une belle semaine.
Parce que attends, si je regarde les games de Checolat de mémoire.
Checolat, il joue. C'est dans la game ward face à Mir.
Checolat n'est pas dégueu. Hein. Checolat est clairement pas dégueu.
Il a joué du coup Corki et ça, c'est ce qui fait gagner sa game. Et dans le Game Ward Geo, il joue une Leblanc qui était de qualité. Alors évidemment,
la Leblanc, elle
est disparue à côté de Sakken, parce que celle de Sakken était aussi merveilleuse. Sakken n'est pas mort de la semaine d'ailleurs, me dit-on dans le chat. Mais
ça compte pas comme
ça. S'il y a un challenger, ça pourrait être Checolat. Mais est-ce que c'est possible de mettre un Checolat à la place de Sakken? C'est la question que je vous pose, bien sûr.
Moi, je trouve que dans la game contre Misfit, Sakken, c'est vraiment. C'est vraiment lui qui crée, pas qui crée le jeu, parce qu'au final il y a eu du jeu qui a été créé un peu trop fort en early sous la tourelle de Irrelevant, mais la première décale clutch sur la rotate top, enfin la première rotate freeze, top qu'il fait sur le freeze de Cabochard est vraiment importante, parce que ça allait être un 2v2 entre Tinks et Irrelevant, et le fait qu'il soit là, bah ça change complètement l'action, et du coup ça permet le snowball.
Ouais.
Pour moi, Sakken. La deuxième game, c'était contre qui?
Ils ont joué après contre Misfit. Et c'est là où il a joué Leblanc.
Misfit, c'était le. Ouais, c'était Salon, et l'autre, c'était Aurélien Sol.
Aurélien Sol, mais c'était Oplon.
Ah oui, mais Aurélien Sol. Aurélien Sol. Honnêtement, la game contre. Je suis désolé, mais les games contre Oplon, j'ai du mal à.
Je suis d'accord, mais justement, le fait qu'il ait sorti son Aurélien Sol, tu vois, moi j'ai tendance à.
Il a utilisé ce match pour faire quelque chose pour moi.
Bah ouais, et jouer du Aurélien Sol, enfin, moi je mets assez Sakken assez largement. Effectivement, je trouve que Checo fait une bonne semaine aussi. Mais Sakken, pour moi, là, il a fait une semaine parfaite et il n'y a pas eu. Il n'y a rien qui a marqué ailleurs. Donc voilà.
Et ben, ne partons pas beaucoup plus loin. Je pense que Checolat n'était pas déméritant, mais que Sakken, décidément, est le joueur de la semaine sur la mid lane.
De toute façon, encore une fois, quand on fait un top, c'est pour ça que quand on parlait de 113 tout à l'heure, là, quand on parle de Checolat, ça ne veut pas dire que les mecs, justement, s'ils sont dans la discussion, c'est qu'ils ont fait une très bonne semaine, a priori. Ça n'empêche pas parfois qu'il y ait.
Exactement. C'est plus pour les citer que du coup, on se pose la question de qui on met. Donc, Zygenda, Skins et Sakken. Décidément, ça a des saveurs d'une Vitality team, en tout cas du passé.
C'est vrai.
Et derrière, on peut continuer avec donc la botlane. Botlane, on a Jeskla peut-être, Reckless, Cronshot qui a pris un point sur Oplon, mais je pense pas que ça suffise pour faire une bonne semaine. Ouais. Et Exakik dans le LDLC contre Mirage qui a pris les points de MVP. Et c'est tout. Côté points de MVP, il n'y en a pas beaucoup plus pour les ADC. Reckless,
t'as pas dit Inax dans le chat.
Non. Ça, c'est.
Ah, mais attends, mais Inax a pas fait une mauvaise semaine. Hein. Regarde.
Je pense pas. Genre, Inax... en vrai, dans le match entre Geo et BDS, c'est Enja qui fait pour moi la div bot. Et dans le Game Ward Geo, il fait plusieurs erreurs, je crois.
Tiaminus, tu veux dire pas Enja?
Non, mais dans le. Ah, désolé, j'étais parti sur Geo. Pour moi, Inax, c'était Geo. Oui, chez Game Ward. Chez Game Ward, si, c'était peut-être mieux.
Mais après, moi, ça Zeri, il m'a pas. Je l'ai pas trouvé. Enfin, il a pas été mauvais, mais ça m'a pas sauté aux yeux, je vous avoue. Son Jin, il a été. Moi, pour moi, il a été bon. Mon meilleur joueur, ce serait Exakik, mais qui a aussi. Troll un petit peu des moments contre Vita où il s'est fait hook avec le Thresh, il se fait tuer par Ziplex.
Et t'as pas aimé Jeskla? Trop d'erreurs?
Jeskla. Après, c'est surtout pour moi Jack, qui honnêtement a pas eu une bonne semaine du tout. La botlane. Moi, la botlane. Enfin, il a pas été mauvais en dehors de la lane, Jeskla. Mais contre LDLC, je crois qu'ils ont bien perdu la lane quand même. Et derrière, avec... ça, Senna, il était bon. Mais après, bon, j'avoue que peut-être j'ai un peu du mal à être impressionné par des Senna, je vais être tout à fait honnête. Moi, j'ai pas été
si impressionné. Surtout que son topside, c'est SKT, quoi. Ziggler qui sort de la lane et qui fait 13-1 à chaque game.
Est-ce que ça peut pas être un Exa, par exemple?
Bah, Exa, il a été un peu sus sur la game contre Vita, donc... C'est après honnêtement la game contre Mirage et Yandere, il a explosé la game.
Ouais.
Mais la première game c'est compliqué de la mettre à lui.
Du coup on final, revient finalement c'est peut-être Inax.
En vrai ça peut être la semaine d'Inax. Moi Inax a été bon tu vois et je suis assez d'accord avec un commentaire sur le chat. Pas d'ADC cette semaine en vrai.
Bah, c'est vrai, le truc.
Mais il en faut un.
Il en faut un pour nos semaines. Mais effectivement. D'ailleurs, ça va être un cas un peu de la bot lane cette semaine. J'ai pas une bot lane. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se pose toutes ces questions.
On nous dit Reckless. Encore une fois, Reckless, là, pour le coup, ça s'est pas vraiment réglé bot. Et Reckless, encore une fois, j'ai pas vu le détail de ce qui s'est passé. Mais en lane, ils se sont fait ouvrir bot lane. Avec donc, de la game contre Misfit, contre Bullight et Vendeur, je crois.
Prendre
MVP sur ça, ce sera très bien payé, les gars. Et après, il a bien joué les games. Il n'a pas eu non plus à trop employer. C'est-à-dire qu'une game c'était au plomb et l'autre game, t'avais Showmaker et Nuguri sur le top side qui jouaient le blanc et Lee Sin, quoi. Donc voilà. C'est pas une mauvaise semaine pour Reckless, mais c'est pas une MVP semaine, surtout pour un joueur comme Reckless. Et moi, je me laisse petit à petit convaincre par Inax, du coup, entre Inax et Exa. Exa, pour moi, qui a été le joueur le plus flashy, mais effectivement, qui a aussi run down des moves. C'est peut-être pas forcément ça qu'on demande à un ADC, quoi.
Le truc, c'est que j'ai l'impression que Exa, on lui demande peut-être plus de carry. Je réfléchissais au potentiel de carry dans les games de cette semaine par rapport à celle de Game World.
Après, Exa joue avec un tank au top, quoi. Il a joué avec Ragnar sur Gragas et Ragnar sur Ornn, donc c'est vraiment lui qui doit carry les games avec Eika.
Ouais, c'est ça qui...
Mais le problème c'est que... Après, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir de ne pas avoir carry contre Gwen? J'en suis pas sûr. Qui sommes-nous pour jeter la pierre?
C'est ça.
Lui les ciseaux. Du coup, résumé, Inax...
En vrai, je crois que c'est Inax, hein.
Allez, Inax, ça me va.
Inax qui prend les Puntos.
Ouais. J'aurais dit Inax over Jesclom. Dans cet ordre-là.
Allez. Inax.
Et il nous reste la botlane.
Alors la support.
Ah, là.
J'essaie de chercher avant le début avant l'émission pour un peu avoir un peu de débroussailler tout ça. J'ai pas d'idée quoi en support, vraiment. Mettre Antera.
Donc, t'es déjà exprimé sur le fait que Jack était passé à côté de sa semaine.
Jack est vraiment passé. Jack certainement pas.
Donc, mais surtout pas.
J'adore Jack. Hein, je suis dur avec les. Enfin, oui, tu vois, genre, c'est vraiment. C'est au contraire, tu vois, je serais très heureux. Littéralement heureux personnellement qui performe, mais non, il a pas fait une bonne semaine. Et. Camillus, c'est pas.
Ouais, Camillus, Antera. Alors, il a fait des roams intéressants, surtout le topside. Il était plutôt bien mécaniquement. Moi, j'ai assez apprécié sa performance. Camillus aussi. Alors, qu'est-ce qu'on pense de Camillus? Chap, t'as une sensation sur ce. T'en as parlé tout à l'heure.
Camillus, tant que je vais remettre les games en tête. Bah, la première game, j'ai pas pu la regarder. Game 1 contre Plomb. La deuxième, c'était contre.
Géo.
Contre Gio,
il a joué du coup Alista. Il était contre Alista, il a joué Leona. C'était Leona Zeri.
Je n'ai pas vu cette game non plus. Ouais. j'ai pas vu les games de Game World cette semaine, il semble.
Il me semble qu'il a été bon. Il me semble que je l'ai trouvé bon. En fait, mais pour le coup, j'ai plus les plays en tête de la game, je vous avoue. Moi, j'ai souvenir qu'il était bon. Voilà, c'est juste ça que je peux vous dire. Et que j'ai pas de support. En fait, je serais prêt à lui mettre. Lui donner. Antera pour moi a été bon aussi, mais ça s'est pas trop joué bot en fait. C'est un peu dur de le donner Antera quand. Quand il a. Après, quand, d'une part ils ont joué contre Plomb et de l'autre côté ça s'est pas joué bot du tout. Mais Antera a été bon sur ses différents moves. Après, il a fait une engage près d'une hache qui pour moi est trop tôt. qui est le moment du coup qui, où ils se font get back sur le Nash dans la game contre Misfit, qui est trop rapide. Pff, c'est vraiment dur.
C'est dur hein, de mettre des supports cette semaine.
Ouais. Ouais. Certains me disent Enja, parce que du coup chez Géo, dans le match face à BDS, il avait fait un super match avec Rakan, mais dans le match Géo Game World, j'ai pas un truc transcendant en tête. Bah moi j'avoue que je m'étais noté assez basiquement, je m'étais dit Anterra, il était dedans, il était dans les 2-0 team avec une double Leona, même si la botlane n'était pas ultra intéressante sur le Reckless Leona de, en face de lane, enfin Anterra, ses décalages étaient bons.
Anterra ça me va.
Et ses décalages étaient de qualité et dans ses teamfights il était bon.
Erdoté, ouais. on en pense quoi? Que, par contre, pour le coup, la game où il joue Thresh, là, il a vraiment été bon.
Ouais, c'était face à Oplon.
Le Thresh Aphelios, le Thresh Aphelios, ils étaient vraiment solides. Après, encore une fois, c'est contre Oplon.
Ouais, il a joué un Tahm Kench aux côtés de Aphelios dans le premier match entre Géo et BDS. Bah, d'ailleurs, t'as dû commenter ce match, Duke? Non,
oui,
peut-être pas.
Absolument.
Ouais, si. Et c'était face à un Jhin Rakan, le Jhin Rakan de Géo. Mais j'ai pas un souvenir que.
Il y avait rien de spécial. Il s'est même fait catch à un moment où c'était pas terrible. Non, moi honnêtement, j'aurais tendance à pencher vers Anterra, effectivement.
Ouais, Anterra, ça me va.
C'est la game, je suis en train d'essayer de la regarder vite fait pour me remémorer la game. Game Ward contre Géo, que j'ai plus très bien en tête, où il joue Leona. Visiblement, qui fait une bonne invade de la jungle, où il joue bien avec Akaban. Mais les deux, pour moi, aucun des deux n'a été brillant. Anterra a été plutôt bon. Et Camillus aussi. Ça me va d'écouter le chat là-dessus. J'ai pas un avis vraiment tranché, honnêtement, sur les supports cette semaine.
C'est assez compliqué, honnêtement.
Eh ben, c'est parti pour Anterra. Je tranche. Allez, et ça nous donne une nouvelle semaine avec donc Zygenda sur la top lane. Ouais.
Tiens, je suis en train de regarder de Game Ward, Gamers Origin. Il y a un all-in sur le level 6 du TF de Caminus, botlane, où il se fait instant one shot. Déjà, Marie.
Ça, c'est red flag, ça.
Ça, c'est red flag, ça. C'est bon.
Et du coup, ça nous donne Zygenda, Skin, Seiken, Inax, Anterra pour cette line-up semaine 5.
Une belle line-up,
effectivement. On la partagera sur les réseaux et vous pouvez nous dire tout le bien que vous en pensez. Ça c'est pour l'équipe type. Je vous propose qu'on se plonge un tout petit peu dans la semaine prochaine, qu'on regarde les matchs banger de la semaine et puis qu'on
j'ai quelques minutes après, il faut que j'aille faire mes tests pour
carrément. Et ben on plonge. Alors je vous mets la cam média ici, comme ça vous voyez la journée du 16 février qui sera donc une journée de reprise pour la LFL avec en ouverture Oplon Misfits. Qui sera suivi par un Game Ward LDLC, puis le Carmine Mirage, enfin le BDS Solari et Vitality Geo. Ça, c'est la journée du mercredi. Est-ce qu'il y a un match que vous allez suivre particulièrement dans cette première journée? Moi, peut-être le Game Ward LDLC va me plaire.
Ouais, Game Ward LDLC, c'est bien. Cassé Mirage, c'est bien aussi. Solari BDS, c'est bien. Vitality Geo. Honnêtement, les matchs sont bien.
En fait, il y a toujours des matchs
bien. Équilibré, c'est ça le problème. Ouais.
Moi, BDS Solari, je pense que c'est intéressant parce que Solari qui sort en 0-2, BDS qui, bon, ont battu Oplon mais sont pas en état de grâce. Je pense que c'est un match vraiment important pour les deux équipes. Là, on approche des playoffs.
Ouais.
Là, je suis d'accord.
Il y a une petite bataille d'anciens divs de Akaban contre Yike dans le match jungle de Game Ward LDLC. Mais effectivement, le BDS Solari va être aussi intéressant. Day 12, où on a Oplon face à Vitality, Geo contre LDLC, Solari Game Ward, BDS Academy contre la Carmine et enfin Mirage Misfit. Si BDS veut vraiment se relancer en LFL, c'est le moment.
Oui. BDS cassé, c'est mauvais tirage.
Solari cassé, bah ouais, c'est ça.
Honnêtement, Solari, ils peuvent gagner, cassé, c'est mauvais tirage, honnêtement. Là, je trouve qu'ils sont vraiment très très forts en ce moment.
Ouais, c'est peut-être pas le moment pour le rencontrer. Le bot side risque de jouer.
Oplon, c'est qui, premier jour, pardon?
Il joue Solari.
Oplon, pardon.
Ah, Solari, Oplon, pardon. Oplon, il joue Misfits et il joue Vitality.
Ouais, bah c'est... C'est le tirage de Solari cette semaine, c'est compliqué encore une fois.
Ouais.
Solari qui jouera Game World BDS Academy.
Ah, pour moi, le badge de la semaine, c'est Solari BDS. Pour moi. Le plus équilibré, le plus...
Ouais. Solari BDS.
Le plus important, on va dire.
Duke, tu valides un match en particulier, non le...
En deuxième journée, moi, c'est... Ouais. Je pense que casser BDS, encore une fois, le plus intéressant. Okay. Voilà, je pense que vraiment, j'ai un peu les yeux fixés sur BDS en ce moment, et puis casser, parce que c'est généralement le dépôt match.
Bon, c'est ça qui conclut notre semaine. On aura l'occasion de déguster ces nouveaux matchs la semaine prochaine. On va laisser Duke se préparer pour le LEC. Yes. Et remercier aussi Chap d'être venu pour ce nouveau Radio LOL. J'espère que ça t'a plu, Chapi. Merci avec d'avoir plaisir, été avec nous. Et merci à tous ceux qui nous ont appelés pendant toute la séance. C'était cool d'avoir vos questions, d'avoir vos interactions. N'hésitez pas toujours à rejoindre nos Discord respectifs pour pouvoir continuer à discuter de tout ça. On remercie Cajou, évidemment, qui nous accompagne. Et on vous dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner évidemment sur les channels de Chap, de Duke, de Croc. C'est l'occasion aussi de soutenir les créateurs indépendants que nous sommes tous les trois. Donc n'hésitez pas à passer nous voir. C'est ça. Merci à tout le monde. Passez une bonne semaine. Ciao, ciao.
Salut. Bon les gars, je file vraiment.